Tadam! Pas de musique, pas d'intro, à l'arrache, comme toujours, deux fois par mois. Oui, ça commence. Oh, ça commence super tôt, non. Il y a Romain Conversin qui dit ça commence super tôt. Non, 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 non. Lundi, on a lancé cette revue de presse à 6h. 6h15, il est 8h10. Mais deux fois par mois, on a MVP, émission dont je suis super fier, qui a connu son festival il y a quelques jours, à côté duquel Woodstock était une vaste blague. Et donc deux fois par mois, la revue de presse est un peu plus tôt, au lieu d'être à 9h, 9h15, le temps de déposer les enfants à l'école. Elle est effectivement... Non, à une époque, on l'a commencé à 9h, cette revue de presse MVP, et puis on s'est rendu compte qu'on pouvait la lancer à 8h30. Et là, l'équipe qui travaille autour d'MVP est tellement en place ce matin, tout est tellement propre, tellement nickel, qu'on a lancé à 8h10, ce qui est un record. Je crois qu'on n'a jamais lancé cette revue de presse MVP aussitôt. Voilà, ce qui est incroyable. Ah ouais, quand je fais mes petits réglages, vous le voyez en direct, c'est fou. C'est fou. J'espère que j'ai pas dingue sur mon iPad. Voilà. Et tant mieux, puisque ça veut dire qu'il est 8h10, 8h11, et qu'on a 1h50 avant MVP. Alors que normalement, cette revue de presse pré-MVP, c'est une mini-revue de presse, quoi. C'est 1 heure. On a quasiment 2 heures. Ça tombe bien, j'ai un petit peu d'actu. Un article sur les scientifiques disparus étonnants. Ouais, c'est un truc bizarre. Aux États-Unis, il y a 11 scientifiques qui ont disparu. Alors, où on les a perdus, on ne sait pas où ils sont, où ils sont morts. Je pense que c'est pas Arthur dans le titre. J'ai encore fait une erreur dans le titre. Où tu vois un Arthur? Tu vois un Arthur, Sugar? Il y a Sugar qui me dit, je pense que c'est pas Arthur dans le titre, sur la scène en bas. Quelle scène en bas? Oh, ça, ah oui, merci beaucoup. Ah ouais, super. Non, ah oui, effectivement, l'invité, c'est pas ça. Bien vu. Ça, c'était la dernière fois. Oh, bien vu, bien vu, bien vu. Oh, je vais vous corriger ça. Je vous montre mon conducteur. Attendez, c'est incroyable, c'est magnifique. Attendez, regardez. Normalement, je devrais pas vous montrer ça. Hein. Regardez. Ça, c'est l'interview de Léopold de Marchand tout à l'heure. Salut, Ki Willy. Si tu arrives à me trouver cette image sur Internet à laquelle tu penses très fort parce que tu as un petit cochon, je t'envoie 10 000 euros. Tu ne la trouveras pas, donc je vais pas perdre 10 000 euros. Mais voilà, avant de raconter des bêtises. Voilà, Léopold de Marchand. C'est un humoriste, très très drôle. Un des précurseurs un peu de YouTube et même de Vine. De Léopold le Marchand. Le Marchand. On est d'accord qu'il est humoriste, mais il est aussi nageur, non? Léopold le Marchand. C'est le célèbre nageur français, non? Qui a eu toutes les médailles aussi, non? Parce que c'est parce que je n'ai pas trouvé beaucoup de. En préparant l'interview hier, j'ai eu un doute là-dessus. On est bien d'accord? Hein? C'est ça, hein? Ok, parce que j'ai prévu de lui poser beaucoup de questions sur ses titres, sur le fait qu'il s'entraîne aux États-Unis, sur comment on arrive à un tel niveau. Voilà. Ok, merci Anonyme31. Salut Sam, as-tu regardé? Bon, même si c'est qu'on a que 2 heures de revue de presse, on va faire une petite intro quand même, on va discuter. Il joue aussi dans Bonne Nuit les Petits, Le Marchand de Sable. Ok, Romain, tu restes avec nous jusqu'à l'interview. Romain, tu restes avec nous jusqu'à 12h, j'ai besoin de toi. Parce que cette blague, je vais l'oublier d'ici 12h et il faut la faire. Donc, c'est un deal entre moi. Et toi, Romain, à 12h, je veux te voir dans le chat et je veux que tu refasses ta blague. Et d'autres, si tu veux, que je poserai à notre invité. Bim! Voilà. Sam, as-tu regardé le docu CNews sur Charles-Henri à l'oncle? Schultz, est-ce que je peux t'appeler papa déjà? Papa Schultz. Comment te dire? J'ai peur de ce que je vais découvrir. D'abord, je ne suis pas sûr que j'ai les droits pour react ce truc. Tu vois, dans quel monde CNews ne réagirait pas mal au fait que je réacte ce produit CNews qui ne m'appartient pas donc sur Charles à l'oncle. Donc déjà, d'autant qu'a priori, sauf énorme surprise, je ne pense pas que je vais noter positivement ce travail journalistique. T'as qu'à les acheter, t'as qu'à acheter les droits, c'est à la mode. Ouh, bien joué. Il y a Banijay, la boîte de prod, qui vient d'acheter les droits d'une vidéo de Squeezie, on va en parler tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà. Alors oui, et puis qu'on tire sur une ambulance, tu vois. Est-ce qu'on va être surpris par l'interview? Un. Deux. vu qu'on va pas forcément dire du bien, comment on va le prendre CNews, tu vois? Ce serait quand même dommage de perdre cette chaîne, cette belle chaîne. Aux 1,131,030 followers, abonnés, hein. pour avoir regardé un truc dont on sait à l'avance qu'il y a dedans, quoi. Oui, comme vous le dites dans le chat, Lucie me dit c'est pas un documentaire, c'est de la propagande. Mumstone, c'est plutôt un publi reportage. Oui, oui, exactement, Sugar. 1,130,000 subs. C'est fou. Alors c'est marrant parce que je... Là on est sur le bilan de fin d'année là, avec mon comptable. On a pas trouvé la trace de ces... d'après mes calculs, d'après ce que j'ai compris de Twitch, normalement, je devrais avoir 1,130,000 subs tous les mois. Et depuis un moment déjà. Et en fait, avec ma comptable, on trouve pas les virements de Twitch. On est en train de se... Il y a peut-être un truc que j'ai mal compris sur le... sur l'économie de Twitch. Non. Donc, je pense qu'on va laisser tomber ce documentaire de CNews sur Monsieur Charles Laloncle, mais on va pas forcément laisser tomber cette actualité-là. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Bientôt. Moi aussi, je peux faire du teasing. Moi aussi, je peux être en mode Zerator dans Popcorn hier soir qui dit à la fin de la Zilan, j'annonce mon plus gros projet ever. Et Domingo qui dit ah ouais, mais quand même, t'en as fait des projets, donc vraiment, ça va être quelque chose. Il me dit ouais, mon plus gros projet. Moi aussi, je peux faire ça. Donc, moi aussi, je peux vous dire que bientôt, je vous ferai un truc aussi. Voilà. Est-ce que quelqu'un a gagné l'euro million? Ah, je sais pas, oui, il y avait 145 millions d'euros hier. En jeu à l'euro million là. Quelqu'un a gagné ou pas? Quelqu'un de la commu avait gagné et était d'humeur généreuse ce matin. Quelqu'un a gagné? Donc il y a un monde où c'est moi. Je n'ai pas voulu regarder ce matin. Je ne sais pas. Yveline me demande est-ce que c'est moi. Je n'ai pas voulu regarder ce matin, je vais vous dire pourquoi. Moi, je ne cache pas que même si je dis attention à tous les jeux d'argent, hein, vous ne me verrez jamais accepter une OP en lien avec les paris sportifs, les jeux d'argent, les trucs comme ça. C'est une vraie addiction, et c'est notamment les paris sportifs là, chez les jeunes, c'est une catastrophe. Donc vous ne me verrez jamais faire la promotion de ça, mais j'avoue, j'ai cette faiblesse pour les grosses cagnottes qui font rêver les millions de milliards. Là. Eh bien, je fais une petite grille de temps en temps. Et je n'ai pas voulu regarder ce matin si j'avais gagné, porqué. Parce que si j'avais gagné 145 millions d'euros, c'est bien, hein, tu peux faire 2-3 trucs avec. Tu peux changer ta voiture, ou alors tu peux changer la batterie, enfin tu peux faire des trucs, quoi. Tu peux faire 2-3, voilà. Tu serais pas là. Si, Sugar, je serais là, mais je serais perturbé, quoi. Je serais en mode tu peux t'acheter de la RAM. La RAM, je sais pas, parce que le prix a beaucoup monté quand même. Tu peux faire 3 pleins d'essence. Ça suit l'actu, hein. Voilà. Et donc je serais venu parce que j'aime trop mon travail, qui n'est pas vraiment un travail d'ailleurs, c'est juste du kiff. Donc je serais venu, mais j'aurais été perturbé. Changer de femme à somnambule, même à 6 milliards de milliards de 30 000 milliards, je ne changerais pas. Quand tu as déjà la meilleure, pourquoi? Ma meilleure décision aurait été de me faire auto-bannir des jeux d'argent. Quelle véritable merde les paris sportifs. Bravo Péponcho, bravo à toi. Mon épouse vient de sub cette chaîne. Mon épouse, que j'ai quittée ce matin, alors qu'elle... Vous savez qu'on a un petit à la maison. Donc les nuits sont compliquées. Mon épouse, que j'ai quittée il y a quelques minutes tout à l'heure, qui m'a dit « Je vais essayer de refaire une petite sieste. » En proposant à Pio ce deal « Allez, on se refait une petite sieste. » Eh bien, manifestement, ne dort pas. Voilà. Et vient de sub cette chaîne. Voilà. Ma puce, bon. Je disais à l'instant que quelqu'un dans le chat me disait si tu gagnes 145 millions d'euros, tu changes de femme. J'expliquais évidemment que jamais. Voilà. Manifestement, Pio n'était pas d'accord pour ce deal de sieste avec maman Hélène, quoi. Pio, tu t'exagères quand même, hein. Non mais alors lui, il vit sa meilleure vie, lui, hein. Il mange, il dort. Mais là, maman Hélène a proposé un petit deal ce matin à une petite siestoune. Manifestement, il n'a pas été d'accord, quoi. Hein. Hélène, Hélène n'écrit jamais. Hélène est seule, mais elle n'écrit pas dans le chat. Hein. perso, j'ai toujours dit, me dit Flynn à mes collègues, je gagne l'euro million, j'apporte des chouquettes de pâte à pain au café pour fêter ça, et du coup, je n'en achète jamais pour pas leur faire croire. Un jour, tu devrais leur acheter. Bon. 8h20. 10 minutes, on va peut-être, on va y aller doucement sur l'actu. Hein. Voilà. J'ai des trucs pas mal. Alors, Heroes Gohan, merci pour le 47e mois, c'est quand même beaucoup. Hélène, mon amoureuse, merci pour le 47e mois. Delirium, merci beaucoup pour le Prime. Pastradan, merci également. Mauvaise nouvelle, me dit MMG. Hélène n'écrit pas dans le chat, mais elle m'envoie un SMS et elle dit... Ah, oh, elle m'envoie une photo. Ah bah c'est Pio, je peux pas vous le montrer parce qu'on montre pas les enfants. Oh, je peux juste vous dire que c'est évidemment le plus beau bébé du monde. Il a des grands yeux. Il a deux grandes billes. Hein, et manifestement, il n'a aucune envie de dormir ce matin. Oh, et c'est très dur de pas vous le montrer parce que là, il a un petit pyjama blanc cassé, là. Blanc cassé. Un petit bandana à rayures. Oh là là. Pff. Il est... Bon, je vous le montre pas. Bonjour, tu as eu un nouvel enfant. Oui, il a 7 semaines. C'est mon troisième. Ah, il y a eu 3 gagnants, donc ça fait que 48 millions d'euros. Ah, nul. Oh, j'espère que j'ai pas gagné, alors. 48 millions d'euros. Ah ouais, non, j'espère que j'ai pas gagné. Ah, je serais deg. Mais 145 divisé par 48, ça fait pas... Par 3, ça fait pas 48. Ah si. Ah si, à peu près. Oh ouais, j'espère que j'ai pas gagné, hein. Je serais trop deg. Hein, Sugar? C'est pas fou, hein. Ah ouais, ouais, j'espère que j'ai pas gagné. Vous voulez que j'aille voir si j'ai gagné? Allez, en direct. Alors, Française des Jeux. Allez, je vous dis. Allez, ça se trouve. Si je quitte le live, vous savez pourquoi, hein. J'ai eu mon troisième il y a 6 mois, il fait ses nuits depuis une semaine, force à vous. Merci Gédéon. Alors, attends. Est-ce que j'ai me connecté? Ah bah, justement, j'ai pas gagné. Hein. Mon historique. Aucun gain. Pff. Ouais, j'aurais été deg de gagner 48 millions d'euros, de toute façon. Qu'est-ce qu'on fait avec 48 millions d'euros aujourd'hui? Aucun gain. Ah, si! J'ai une grille qui a gagné 7,50€. My bad. 7,20€. Tadam! Ça faisait... Waouh. Wouhou! Pas mal, ouais. Bon, trêve de bilvesé, on a du pain sur la planche, on a de l'actualité. Et puis, et je vous rappelle qu'à 10h, on retrouve MVP, qui a connu son festival il n'y a pas longtemps, avec que des beaux gosses. Voilà. On va notamment se pencher sur l'espèce de fatigue des Français au travail. Les Français sont de moins en moins motivés. C'est pas qu'un discours. Les Français sont de moins en moins motivés au travail. Il y a les enquêtes disent clairement qu'il y a une baisse de motivation, il y a une baisse de plaisir. On se pose la question du sens. Voilà. Il y a du bore out, c'est-à-dire de l'ennui au travail. Il y a du brown out aussi, c'est-à-dire de la perte de sens. Voilà. Et donc on va se pencher là-dessus avec l'équipe, voilà, parmi les sujets. Il y aura des petits jeux aussi, on va rigoler comme d'habitude. Alors, voilà, Urtica, on se demande bien pourquoi. D'ailleurs, il y aura un psychologue du travail, un mec génial, qui est passionné depuis des années sur ça, les conditions de travail. Et alors lui, ça le passionne justement. Et un chiffre qui éclaire ça, c'est l'explosion des arrêts maladie, vous savez, en France, notamment chez les jeunes. Et clairement, il y a un lien, conditions de travail, perte de sens... rémunération aussi. Donc on aura ce débat à partir de 10h, c'est hyper intéressant. Voilà. Puis après, des petits jeux pour se détendre, comme d'habitude, des professions mystères à découvrir, un invité dont il faudra découvrir le métier, des petits jeux sur les métiers anciens, voilà. Puis notre invité, Léopold Lemarchand, l'humoriste, qui est aussi un grand nageur. Je pense que le pauvre, il va être tellement deg quand je vais faire la blague tout à l'heure. À partir de 12h. Ok ? On y va ? Est-ce que vous êtes prêts ? 8h24, ça nous fait une grosse heure et demie de revue de presse. Vous me dites, je vous suis, moi. Go, c'est parti. Une heure et demie de revue de presse, notamment une heure et demie de revue de presse en podcast. Salut Étienne. 3, 4. On va faire le sommaire. 3, 4. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinée Étienne, la grande revue de presse sur Twitch tous les matins depuis 5 ans. Alors, revue de presse un petit peu particulière, parce que c'est le jour de MVP, mon émission Ma Vie Pro, qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne, deux mercredis par mois. Et ce jour-là, ben, la revue de presse, elle dure pas 3 heures comme d'habitude, elle dure plutôt 1h30. Et là, on est parti pour 1h30 dense d'actu. Il y a quand même pas mal de choses, avec plein de choses, qui va commencer par le sommaire. Je salue ceux qui nous regardent et nous écoutent en live sur Twitch ce matin, ceux qui vont nous écouter en replay sur YouTube et ceux qui vont nous écouter également en podcast audio. Vous m'écoutez en courant, en faisant vos courses, en prenant un bain, en faisant du sport, en faisant tout ce que vous voulez, bande de grigou. Voilà, c'est posté à partir de 15-16 heures tous les jours sur toutes les plateformes de podcast audio. Alors, parlant de YouTube, qu'est-ce que je pourrais vous mettre en avant sur YouTube? Peut-être la disparition mystérieuse. Elle est bizarre, là, mon truc, là. Qu'est-ce qui se passe sur le sommaire? De 11 scientifiques. Voilà, c'est ça. Ouais, je pense que je vous mettrai ça sur YouTube, c'est intéressant. Sur YouTube, on mettra la disparition mystérieuse de 11 scientifiques aux États-Unis. Un truc un peu bizarre. Nucléaire, extraterrestre, pop. Ouais, sérieux. Ok, c'est parti. Je vous fais le sommaire pour commencer. C'est-à-dire que je vous donne l'essentiel de l'actu en quelques minutes pour ceux qui n'ont pas 1h30 ce matin. D'abord, on fera le point, bien sûr, sur le conflit Iran-USA-Israël. Où on en est, on sait qu'on a un cessez-le-feu qui a été annoncé il y a 2 semaines, le cessez-le-feu devait s'achever là et il est prolongé. Voilà, donc je pense qu'il est important de voir où on en est. Il est prolongé par Trump qui dit, qui menace comme toujours de faire déferler un océan de feu sur l'Iran, frappant notamment les centrales et les ponts. Et puis il dit bon, non, finalement, allez. Un petit prolongement du cessez-le-feu. Donc on se penchera sur les dernières actus, on ira voir cette brève dans Le Parisien. On est vraiment en train de commenter une actualité qui est en train de se faire sous nos yeux, donc on n'a pas mis l'article. On ira voir aussi ce que dit le Huffington Post sur le sujet. Voilà. Alors au cœur de ce conflit, vous savez, il y a la question notamment du pétrole. Voilà. Et là, on a un dossier dans Le Monde, c'est même la une du Monde, passionnant, sur, en 2025, l'essor fulgurant des renouvelables, des énergies renouvelables. Le rapport annuel du centre de réflexion Amber montre la croissance spectaculaire du solaire et de l'éolien. Voilà. Alors, par rapport aux énergies carbonées, par rapport au nucléaire aussi. Donc, salut Victoria, bienvenue parmi nous. Alors, on parle beaucoup de l'Espagne en ce moment. Vous me parlez beaucoup de l'Espagne en ce moment. D'abord sur le plan diplomatique, parce que Pedro Sanchez, le Premier ministre socialiste espagnol, c'est l'homme en ce moment qui dit non à cette guerre en Iran, hein, l'homme qui dit non à Trump et Netanyahou, nous dit Le Parisien. Donc d'abord, il y a cette singularité diplomatique en Europe. Voilà. Il est vraiment à la pointe de l'opposition en Europe contre Trump et cette guerre. Et puis, il y a aussi sa politique intérieure, et notamment la décision qu'il vient de prendre de régulariser 500 000 travailleurs sans papier en Espagne. Donc ça provoque un débat sur l'immigration dans les autres pays européens. Et on a un article dans Libération de Jonathan Boucher-Petersen qui s'interroge, est-ce que c'est un modèle, hein, est-ce que c'est un modèle qu'on doit suivre ou pas? Et l'article est intéressant parce qu'il dit, effectivement, il y a des choses intéressantes et positives qui se passent actuellement en Espagne, mais attention dans l'analyse à pas se, à pas se laisser berner. Et il dit, attention, il y a aussi des choses qui expliquent ce qui se passe actuellement en Espagne et qui sont pas forcément, qu'on ne peut pas forcément reproduire en France. Voilà. L'article est intéressant. Pedro Sanchez ne peut pas s'asseoir, me dit l'autre con. J'aime beaucoup. Voilà. Pedro Sanchez ne peut pas s'asseoir. Vous l'avez ? J'aime beaucoup. Voilà, on parlera de ça. Alors ça, c'est un peu bizarre. Sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc de complotiste ? Mais en même temps, je sais que le journal Le Parisien n'est pas un média complotiste. Normalement, c'est un média assez rigoureux, et pourtant Le Parisien me parle de ces 11 scientifiques qui, aux États-Unis, ont mystérieusement disparu. Des chercheurs travaillant sur l'espace ou le nucléaire pour les plus grandes institutions américaines qui ont été tués ou sont portés disparus. Voilà. Une série de faits divers qui interrogent jusqu'à la Maison-Blanche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Est-ce que c'est un lien avec le nucléaire ? Est-ce que c'est un truc orchestré par une puissance étrangère? Est-ce que c'est un truc lié aux extraterrestres? Bref, c'est un peu bizarre. Donc on lira cet article, on le mettra aussi sur YouTube. Une petite brève, mais qui en dit long, sur les... Alors j'ai pas envie de dire rapprochement parce que ça me paraît vraiment trop tôt pour le dire, mais ces tentatives de dialogue entre les médias traditionnels et les nouveaux médias. Vous avez Banijay, la boîte de prod, qui vient d'acquérir les droits d'adaptation d'une vidéo YouTube de Squeezie. Voilà, donc... et c'est quoi, c'est dans Les Échos? Non, c'est dans le Figaro Économie, hein, qui voit que c'est une forme d'illustration des tentatives de rapprochement, sinon de dialogue entre médias traditionnels et nouvelles plateformes de divertissement et d'information. Et puis on finira avec deux articles qui font réfléchir et qui sont très intéressants. Un article d'abord dans Le Monde sur l'attention humaine n'est pas une ressource industrielle comme une autre. Ça, c'est hyper intéressant. C'est, vous savez, ce débat en ce moment sur les réseaux sociaux et sur les algorithmes qui sont pensés pour capter notre attention, voilà, et faire des sous avec. Hein. Et là, on a un article signé par plusieurs scientifiques qui nous disent que l'être humain n'est pas fait pour une stimulation continue. Cette stimulation continue, notamment par les algorithmes, à des fins financières, voilà, elle ne correspond pas à la manière dont nous sommes fabriqués, constitués. Voilà, c'est pas bon. Et ces scientifiques disent il faut absolument mettre une protection renforcée des mineurs. Pas mal, hein? Et puis on finira avec un autre article sur Le Monde qui tire la sonnette d'alarme sur l'affaiblissement de la presse écrite régionale. Voilà, il y a des plans sociaux, il y a des suppressions de postes qui ont été annoncées ces derniers jours. Voilà, on a des journaux qui souffrent actuellement. Voilà. Et Le Monde dit attention, parce que là on a un enjeu démocratique. Voilà. Prenons l'exemple de plusieurs études, notamment aux États-Unis, qui montrent que là où les médias locaux disparaissent et sont parfois remplacés par ou les réseaux sociaux ou des sites, on va dire, douteux, hein, pour pas dire bourrés de fake news, eh bien c'est la démocratie qui recule. Voilà. Et ça a des conséquences, par exemple, sur le vote, sur le comportement des entreprises, sur plein de choses. Titre du stream pas à jour. Si, ah oui, parce qu'il y a la revue de presse avant. Ah oui, il faut que je dise qu'il y a deux. Oui. Il y a les deux en fait. Matinée, Étienne. Plus. Il y a les deux. MVP c'est à 10h. Ouais. Si c'est à jour, c'est juste que j'ai pris un peu d'avance. Toujours un peu d'avance, moi. Faut vivre avec son temps. Hein. Tiens, je te l'actualise pour te faire plaisir. Voilà. Tac. Quoique le titre en bas, il est bon en plus. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ça, regarde même. Regarde. Tac. Encore mieux. Je vais carrément faire ça. Tac. Je suis un fou, moi. De toute façon, je suis un dingue. Tac. Tac. Il est bien mon sommaire ou pas? Pour un petit sommaire d'une heure et demie. Il y a la matière, hein? Hein? C'est beau ou c'est pas beau? Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait! Tiens, regarde, c'est Mexo me dit « Hello Sam, je suis livreur de presse régionale, je confirme, c'est bientôt la fin. » Ouais, et ben c'est super inquiétant. Et c'est très très inquiétant, et je vais vous dire pourquoi. Ouais. Salut Mathieu. Mathieu, on fera un coup de projecteur sur YouTube sur l'histoire des scientifiques aux États-Unis, de la disparue, c'est super bizarre. Ok? Est-ce que j'ai votre feu vert pour commencer? Bande de pruneaux. On y va? C'est parti, let's go. D'abord, on va faire le point sur la guerre en Iran. Donc, parce qu'on est dans des heures importantes, moi, je vais vous faire évoluer le sommaire. Tac. C'est-à-dire qu'on avait un cessez-le-feu pour deux semaines qui s'achevait là. Hein. Donc, la question était de savoir si, hop, ça repartait en guerre, bombardement tutti quanti, ou s'il y avait un accord de paix qui était trouvé entre d'un côté États-Unis et Israël, de l'autre l'Iran, ou si le cessez-le-feu était reconduit. Eh bien, il est reconduit. Voilà. Petite brève dans le Parisien ce matin, voilà, parce que c'est des infos qui se déroulent en ce moment, hein, notamment cette nuit, donc il n'y a pas grand-chose pour l'instant, mais on va aller voir un article dans le Huffington Post qui nous en dit un peu plus. Guerre Iran-États-Unis, cessez-le-feu prolongé, c'est ça l'info importante, annonce Trump. Alors c'est une décision unilatérale, c'est important de le noter, c'est Trump qui annonce que le cessez-le-feu est prolongé. Il l'a annoncé mardi soir, afin de donner, dit-il, plus de temps à Téhéran pour négocier, sauf qu'on va voir tout à l'heure, notamment dans le HuffPost, qu'a priori, Téhéran n'avait même pas envoyé de représentants aux négociations. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout en maintenant le blocus des ports iraniens. S'exprimant sur sa plateforme Truth Social, le président américain a annoncé avoir décidé de prolonger le cessez-le-feu jusqu'à ce que l'Iran présente une proposition visant à mettre au conflit, fin au conflit. Voilà. Cette déclaration intervient après l'annonce de l'agence Tasnim, agence de presse proche des autorités iraniennes, que Téhéran ne participera pas au pourparlers. Donc c'est même pas... Les négociateurs se sont vus et puis ils se sont dit tiens, on a besoin d'un petit peu de temps, on va reconduire un peu le cessez-le-feu. C'est qu'en fait, l'Iran a priori n'a même pas envoyé de représentant, et d'ailleurs le vice-président américain J.D. Vance n'a pas quitté les États-Unis et n'est pas venu à Islamabad au Pakistan, là où se déroulent les négociations, justement ayant constaté que les autres n'étaient pas venus. L'Iran estime qu'il s'agit d'une perte de temps car les États-Unis empêchent d'obtenir un accord convenable. Bon, ce qu'on en comprend finalement, c'est que les négociations avancent tellement peu que c'était pas la peine de se retrouver. Je vais aller voir le HuffPost. Voilà. Mais que c'était pas non plus le temps de reprendre les combats, quoi. Alors attendez. Tenez. Magnifique. On va aller voir le HuffPost. Ah, je vais vous mettre une jolie. Je vais faire une jolie mise en page. Tac. Le HuffPost. C'est ça, voilà. Le HuffPost, c'est un site que je redécouvre, que j'ai beaucoup consommé à une époque. Et que je redécouvre parce que sur les infos de dernière minute, ils sont bons. Hein, c'est un média en ligne sur internet. Voilà, gratuit, donc beaucoup de pubs, hein. Donc faites pas attention, ça, on s'en fout. Voilà. Mais du coup, sur les infos de dernière minute, ils sont plutôt bons, ils sont très réactifs. Voilà. Nouveau revirement du président américain, écrit le HuffPost, qui pourtant avait jugé en début de semaine hautement improbable une prolongation du cessez-le-feu. Bon, après, que Trump dise le mardi un truc différent de lundi et encore différent du mercredi, et je ne parle pas du jeudi, ça, c'est pas une info en soi, c'est pas nouveau. Une fenêtre de temps supplémentaire, Trump s'est résolu mardi à prolonger jusqu'à nouvel ordre la trêve en cours en Iran, mais a annoncé maintenir le blocus des ports du pays, donc ça le Parisien nous le disait. Hein? Pourtant, pas plus tard que lundi, tiens donc, le Républicain avait encore jugé hautement improbable une prolongation du cessez-le-feu. Il y a beaucoup d'articles ce matin qui parlent de la démonétisation de la parole diplomatique de Trump, c'est-à-dire qu'il dit tellement tout et son contraire, dans la même journée parfois. Que, alors évidemment certains disent oui mais c'est exprès, c'est la diplomatie imprévisible, c'est pour mettre la pression sur les autres et tout. Mais sauf que y a des gens qui disent ouais mais là mais ça n'a plus aucun sens quoi. Voilà. Alors le premier ministre pakistanais lui a salué l'extension du cessez-le-feu parce que Islamabad, le Pakistan essaye d'être celui qui facilite les discussions de paix, vous le savez. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, s'est félicité de cette annonce et estime que c'est une avancée importante vers la désescalade, le fait que le cessez-le-feu soit reconduit. Le vice-président américain J.D. Vance, qui devait partir pour le Pakistan pour les négociations, ben, je vous le disais, n'est pas parti. Et a priori, c'est un lien avec le fait que les Iraniens n'avaient même pas envoyé de représentants pour ce deuxième round de négociations, hein. Voilà, c'est l'info qui est ici. L'Iran s'est en état refusé à envoyer une délégation au Pakistan pour des pourparlers exigeant la fin du blocus américain de ses ports. Avant l'annonce de Trump, Téhéran avait menacé de reprendre les frappes en direction des pays du Golfe, mettant en péril l'approvisionnement pétrolier mondial. Et le ministre iranien des Affaires étrangères a jugé que le blocus américain des ports du pays qui se poursuit, hein, constituer un acte de guerre et donc une violation du cessez-le-feu. C'est un peu tendu quand même. À suivre. Voilà. Donc, tout ça pour ça. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le cessez-le-feu n'est pas rompu. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu... Moi, c'est ce que je vous disais hier matin. On aurait pu se retrouver ce matin... et l'info que je vous aurais donnée, c'était bon les frappes reprennent. Voilà. Donc on n'en est pas là. Priorité toujours aux discussions, aux négociations. Peut-être que demain, on en saura un peu plus sur la reprise éventuelle prochaine des négociations et sur la manière dont ce cessez-le-feu est respecté ou pas. Voilà. Comme le dit Aztec dans le chat à l'instant, on est sûr qu'on est sûr de rien. Exactement. Bah, on est au moins sûr qu'a priori, les frappes des deux côtés sont interrompues, quoi. Je vous lis. Alors, MMG, tu comprendras que un message qui commence par ASKIP, ASKIP paraît, on va le prendre avec beaucoup de précautions, mais il est intéressant parce qu'effectivement, j'ai vu cette rumeur traîner. ASKIP, Trump voulait lancer une bombe atomique en Iran, mais l'armée américaine ne lui a pas donné les codes nucléaires pour le faire et il aurait été furax. Donc, le ASKIP. Source Évian, comme dit Dawa, mais il y a cette rumeur qui traînasse. Donc, si jamais moi j'ai des infos, pas à skip, mais des infos sourcées à un moment sur le sujet de la tentation éventuellement de l'emploi de la bombe nucléaire par Trump, évidemment, je vous en parlerai. Voilà, je me mets ça dans un coin de ma tête. L'avenir avec Trump, tout est possible, hein? Oui ou non? Alors, source HTMI. Merci Fire Shadow, ça nous change un petit peu parce qu'en général nous on est sur les sources Evian ou sources Vittel ou sources HDMI, j'aime bien aussi. Mais on surveille quand même. On surveille, c'est pas inintéressant, c'est pas inintéressant. Nuke them all. Magnifique, vous êtes trop fort. Bon, voici pour l'Iran. On y revient bien sûr demain. Au cœur de ce conflit, il y a bien sûr le pétrole. Voilà. Et justement, la une du Monde est consacrée à un truc hyper intéressant. L'essor fulgurant des renouvelables en 2025. Renouvelables, énergie renouvelable bien sûr. Le rapport annuel du Centre de réflexion Amber montre la croissance spectaculaire du solaire et de l'éolien par rapport aux énergies carbonées, par rapport au nucléaire également. C'est pas mal quand même, hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les chiffres? Let's go. Zoomons, zoomons avec nos petits yeux. Pour la première fois en 100 ans, la part de l'électricité mondiale produite à partir d'énergies renouvelables a dépassé en 2025 celle produite à partir du charbon. C'est la première fois. 34%. Attention, hein. C'est pas l'énergie. Attendez, ne confondez pas, hein. C'est pas l'énergie consommée dans le monde à un instant T. C'est la part de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables. Vous voyez? C'est deux choses différentes. Mais quand même, ça progresse. Donc 34% qui passent devant le charbon. Alors le charbon, la source d'énergie la plus émettrice de gaz à effet de serre, vous le savez, 33%. Et pour la cinquième fois seulement depuis le début du siècle, la production d'électricité issue de l'ensemble des combustions fossiles a légèrement diminué. Voilà. Voilà. Donc oui, Candy Batch, on peut dire que c'est une bonne nouvelle. Pour une fois, j'en ai pas souvent dans la revue de presse, moi. La 7e édition de la Revue mondiale de l'électricité publiée, blablabla, ça c'est la source, ça a l'air pas mal, montre que le développement spectaculaire du solaire et de l'éolien se poursuit à l'échelle mondiale, influant sur le système énergétique. Alors, hein? Elle est publiée alors que le secteur traverse une crise d'ampleur inédite provoquée par la guerre au Moyen-Orient, qui illustre les risques économiques et de souveraineté liés à la dépendance au pétrole et au gaz. Voilà. C'est vrai que ce conflit a le mérite d'indiquer à beaucoup de pays et de citoyens qu'il serait peut-être temps de basculer. Ouais. Voilà. Selon les chiffres de l'étude, la production d'énergie renouvelable, notamment de solaire, a permis de répondre à la totalité de la hausse de la consommation d'électricité. La croissance de l'énergie propre est telle qu'elle peut désormais répondre à tous les besoins supplémentaires. Fait notable, à la fois la Chine et l'Inde, deux des principaux pollueurs, ont pour la première fois depuis le début du siècle vu leur production d'électricité fossile diminuer en même temps en 2025, respectivement de 0,9 et de 3,3%, alors que celles des États-Unis et de l'Union européenne ont augmenté. Donc, près de production d'électricité fossile qui a diminué en Inde et en Chine. L'essor fulgurant du solaire s'est poursuivi avec une production supplémentaire. Donc ça, c'est les chiffres. Ok, je ne vais pas rentrer dans le détail de partout. L'année 2025 qui marque par ailleurs un tournant en matière d'installation de batteries, cruciales puisqu'elles permettent de stocker l'électricité. L'installation de ces équipements dont le coût a drastiquement diminué a augmenté de 46% en 2025 par rapport à 2024. Alors attention, petit bémol, hein. Si elles témoignent d'inflexions importantes, ces données concernent uniquement l'électricité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui ne représentait en 2024 que 21% de la consommation globale d'énergie, les énergies fossiles étant utilisées dans bien d'autres secteurs. Pour que les émissions de gaz à effet de serre diminuent, il faudra que l'électricité renouvelable continue à répondre à la hausse de la demande, mais aussi qu'elle se substitue, et là on n'en est pas là, hein, c'est ce que disait quelqu'un dans le chat tout à l'heure, à une part plus large de la consommation grâce à l'électrification des usages. Donc c'est bien que la part du renouvelable dans l'électricité augmente, mais ce qui serait mieux, c'est que du coup la consommation que dans que putain, pour être précis, que l'électrification des usages progresse, que la part de l'électricité dans l'utilisation d'énergie au niveau global, mondial, augmente, et que la part de renouvelable dans cette électricité augmente également, quoi. Donc c'est un mouvement très lent, mais a priori il semble lancé. Attention, re bémol, se pose aussi la question de savoir si ces évolutions vont se poursuivre, malgré les bouleversements provoqués par la fermeture du détroit d'Ormuz et la destruction d'infrastructures majeures. Parce qu'évidemment, si notre consommation d'énergie dans le monde continue de monter, sinon d'exploser, je pense aux data centers, etc. Tu pourras toujours mettre plus de cellules photovoltaïques et d'éoliennes ou que sais-je. Ça veut dire que tu consommeras toujours, voire plus, d'énergie carbonée. Non pas en pourcentage, mais en valeur absolue. Je pense que je suis clair là-dessus. Vous voyez? Oui ou non? Je vous lis. C'est clair? La population évolue en croissance, donc forcément. Ça dépend du comportement de la dite population. Je vous lis. Alors, vous êtes plusieurs à me dire que dans cette étude, dans cette étude-là, le nucléaire n'est pas évoqué, quoi. Effectivement, c'est à minima problématique. Nightwolf me dit, on exclut le nucléaire dans ce constat alors que c'est la meilleure option. Et j'avais Toweli aussi qui me disait, pourtant le nucléaire n'est ni. Attends, où est-ce que tu es, Toweli? Je crois que c'est toi qui disais quelque chose là-dessus, sur le sujet aussi tout à l'heure. C'est marrant de ne jamais parler du nucléaire qui pollue moins et est pilotable, sûrement un oubli. Voilà, c'est Toweli qui le disait tout à l'heure. Parce que le nucléaire n'est pas une énergie renouvelable. Tout à fait, c'est vrai. C'est intéressant ce que dit Oradaman. J'ai installé une batterie domestique l'an dernier avec les panneaux solaires. Je suis quasi autonome en électricité, 6 mois par an, mais j'ai l'impression de libérer de l'énergie pour les data centers. Il y a Lucie qui me dit qu'il faut de l'eau pour refroidir le nucléaire et c'est la ressource qui va manquer, donc pas sûr que ce soit une bonne option. Et quant aux batteries, Urtica en parle, le problème c'est que les batteries ne sont pas créées ex nihilo mais avec des terres rares. Ah oui, Flynn précise, ça ne consomme pas de l'eau de refroidir nucléaire. L'eau n'est pas consommée. Hein. Ouais. En revanche, on sait que en France, parfois, il y a des centrales nucléaires qui ne peuvent pas tourner à pleine puissance parce que la température du cours d'eau hein, utilisé pour refroidir la centrale est trop élevé, et donc le rejet d'eau chauffée du coup par la centrale est impossible dans la rivière parce que ça menace l'écosystème. Donc là, il y a quand même un sujet. Ou quand les niveaux des fleuves sont bas. Oui, tu as raison. Ou quand les niveaux des fleuves sont bas. Tout à fait. Tu as raison. Alors attention, me disent plusieurs personnes. Terres rares, ça ne veut pas dire que ce sont des matières rares. C'est ce que me dit à l'extrême. Alors il faudrait que je travaille un peu sur le sujet. Moi, j'avoue que je ne le maîtrise pas. La terre en abondance sur Terre, juste difficile à extraire, me dit à l'extrême. Les terres rares sont parfois, me dit Floyd, jusqu'à 100 fois plus abondantes que les minerais traditionnels. Le vrai problème, ce sont les alliages de métaux qui sacrifient toute forme de recyclage. Ah, vous êtes fort. Terres rares, faible en densité, donc compliquée à raffiner, me dit encore Nico Pradi. Merci Celdouce pour le soutien. Intéressant. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, c'est quand même, il n'y en a pas si souvent, une forme de bonne nouvelle. 2025, dans le monde, l'essor fulgurant des renouvelables. On n'est pas sorti du truc, on n'est pas sorti de l'auberge, ça se dit ça? Je sais pas. Une rêve de vieux qui me revient. Mais en tout cas, il y a des trucs qui se mettent en place. Let's go. Ensuite, je vous emmène en Espagne. Vamos! Pourquoi? Pas parce qu'on parle beaucoup de l'Espagne en ce moment, en raison de sa politique diplomatique. Celle de Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol. Voilà. Et aussi en raison de sa politique intérieure, notamment en matière d'immigration. Et vous êtes nombreux à m'en parler de l'Espagne. Et on a deux articles ce matin, d'abord du Parisien, sur l'homme qui dit non à Trump et Netanyahou. Et cet homme, c'est lui. C'est Pedro. T'imagines le mec? Le journaliste nul. Et c'est lui, Pedro Sanchez. Voilà. Belle barbe, bel homme. Alors, non, pas du tout, c'est lui. C'est lui, là. Ce serait drôle. Et il est là. On ne le voit pas très bien. C'est très mal cadré. Ah, non, c'est lui, là. Ouais, Pedro Sanchez. Hostile. Alors, pourquoi on en parle au niveau diplomatique? Hostile au tandem américano-israélien. Le Premier ministre socialiste voit sa cote de popularité grimper sur la scène internationale. Sa politique intérieure, elle, connaît plus de turbulences, notamment, vous verrez, parce que certains de ses proches sont un peu mis en examen. Un frère, je crois, notamment son épouse, dans des histoires pas nettes, nettes. Mais bon, je vais vous en parler. Alors, à Barcelone, samedi, son forum, baptisé En défense de la démocratie, est un carton. Des dirigeants de renom comme le président Lula, le Colombien Gustavo Petro, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa ou encore la Mexicaine Claudia Sheinbaum ont fait le déplacement. Mais au milieu de ce casting, la vraie star, c'est le Premier ministre espagnol, un pays qui pèse pourtant très peu sur l'échiquier géopolitique. La gauche internationale consacre Sanchez à Boubou. Attendez, je fais une pause, il y a Boubou, hein, qui est derrière notamment ce sommaire incroyable de qualité qu'on a mis en place il y a quelques mois maintenant, qui n'arrête pas de le faire évoluer et notamment me permet de le faire fonctionner maintenant quand je suis en MVP et plein d'autres choses hyper sympas. Boubou, j'ai vu que tu m'avais envoyé un petit questionnaire. Il est bien dans ma tête. Et dès que je trouve un petit moment cette semaine, j'y réponds. Mais je voulais te remercier parce qu'il marche du feu de Dieu, ce sommaire. Est-ce que dans le chat, on peut faire un gros big up à Boubou, voilà, qui nous a fait un sommaire de fou, voilà, et qui marche de mieux en mieux, et qui est incroyable, et qui est un outil qui m'aide vraiment à faire la meilleure revue de presse possible. Mais vraiment, je le dis premier degré. Voilà, vraiment. Voilà, donc merci, et puis je reviens vers toi avec ton questionnaire de 15 pages dès que je peux. Je reviens à mon espagnol. La gauche internationale consacre Sanchez et empressé de titrer le quotidien El País. Ce jour-là, devant ses alliés politiques et 6000 militants, le dirigeant du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, le PSOE, a pris les rênes de ce nouveau front progressiste. Et même s'il n'en portait pas le nom, ce sommet s'est vite mué en meeting anti-Trump. Nous allons tordre le bras. Ah non, Boubou, laisse tes questions parce que je vais revenir sur toi. Tordre le bras de ceux qui se pensent intouchables. Les milliardaires à la cupidité sans limite, ceux qui spéculent sur les maisons des gens, lance Sanchez, visant en grande partie le président américain. Pas mal, hein ? Son positionnement, c'est tout sauf un valet des États-Unis, observe une chercheuse franco-espagnole. Son ton offensif, Pedro Sanchez l'emploie depuis des mois, surtout quand il évoque le locataire de la Maison Blanche ou Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien. D'ailleurs, l'Espagne vient de rompre ses relations diplomatiques avec Israël, je crois. Enfin, je vais vérifier cette info. Il n'a cesse de condamner la stratégie militaire du tandem, qu'elle soit coordonnée ou solitaire. Hein, coordonnée, l'offensive contre l'Iran, solitaire, à Gaza pour l'État hébreu, Venezuela pour les States. L'affirmation extérieure de Sanchez s'inscrit dans la continuité de celle tracée par Felipe González, qui est l'ancien chef de gouvernement espagnol socialiste entre 82 et 96. Défense du droit international, des droits humains, du multilatéralisme, de la paix. C'est quoi tous ces gros mots là ? Il y a encore des dirigeants dans le monde ? Moi je suis choqué. Hein. Qui veulent promouvoir le droit international ? Quoi ? Les droits humains ? Mais il faut aller ! C'est un loco ! Du multilatéralisme ? Mais c'est le fou du bus lui. De la paix ? Mais on va où avec ces gars-là ? Mais on va où avec ces gars-là ? Merci Baron Rouge. Merci Celle Douce, merci à Crescetta. De la sécurité et de la coopération internationale ? Mais c'est des fadas ? C'est des has-been ? Incroyable. C'est ce que constate un historien, Jean-Jacques Kurliansky, qui est un spécialiste de l'Espagne, et qui s'accompagne cette philosophie, cette politique, d'affichage clair et public de divergence lorsque ces principes ne sont pas respectés, par exemple, au hasard, par Israël, par la Russie ou les États-Unis. Avec l'État hébreu, c'est ce que je vous disais, les relations diplomatiques sont rompues. Voilà. Sanchez a mis fin début mars aux fonctions de son ambassadrice à Tel Aviv. Et mardi, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont réunis à Bruxelles pour discuter de leur accord d'association avec Israël à la demande de Espagne. Voilà. Durant les derniers mois du conflit à Gaza, son gouvernement n'avait pas hésité à parler de génocide, s'attirant les foudres de Netanyahou, dont les partisans fustigent un antisémitisme d'État. Vous savez, ça c'est la ligne de défense du gouvernement Netanyahou. Toute critique contre son gouvernement est de l'antisémitisme, ce qui évidemment est faux. Fin mars, ça n'est pas tout, Sanchez a interdit l'usage de son espace aérien, il est hyper intéressant cet article, aux avions américains engagés dans la guerre contre l'Iran. Choix fort, inédit à l'époque. Merci Fauvetou, tu régales, merci pour ton message. La France lui a emboîté le pas, un joli coup politique qui donne un peu de poids à la ligne tenue face à Washington et rapporte des points de popularité. Depuis Madrid, les prises de distance de Sanchez avec Washington exaspèrent les partis de droite et d'extrême droite. Parti populaire, le fameux PP, et le parti d'extrême droite Vox. Seulement, c'est là où la droite et l'extrême droite en Espagne sont un peu embêtés. Seulement, les déclarations menaçantes de Trump contre Madrid sur la guerre en Iran, les droits de douane, hein, ou encore son faible budget de la défense pour l'OTAN brouillent leur ligne. Difficile pour les patriotes espagnol de prendre parti pour un président qui met l'Espagne à l'index. C'est compliqué pour la droite et l'extrême droite de dire « Ah ouais, mais vive Trump quand même !» Tant celui-ci a une politique qui est justement anti-Europe, et notamment anti-Espagne, sur le plan commercial, militaire et diplomatique. En martelant son message, le socialiste met ainsi ses opposants en difficulté. Intéressant, hein ? Alors attention, ça c'est pour le versant lumineux. Maintenant on va passer du côté de la face cachée de la Lune. Voilà. Mais pour vous dire que tout ne va pas bien quand même pour Sanchez. À domicile, au contraire, Sanchez joue sa survie. Chacun des trois gouvernements qu'il a composés depuis sa prise de poste est le fruit d'une coalition avec d'autres forces de gauche. Voilà. Il est toujours sur le fil du rasoir, il est toujours obligé de négocier, résume une chercheuse. Voilà. N'empêche que Arrivé au pouvoir à la surprise générale en 2018, il a longtemps été perçu comme un dirigeant de passage, mais ça fait 8 ans qu'il est là, ce qui est beaucoup. 8 ans qu'il est là. Au point que les oppositions de droite et leurs médias ont centré leurs attaques non pas sur son programme, mais sur... Voilà. Et ça, je vous en parlais tout à l'heure. Et certains dans le chat, j'ai vu un ou deux messages là-dessus, avaient très envie qu'on en parle. Mais t'inquiète, on va en parler. Sur la présomption de corruption de son entourage politique familial. Comme ils ont du mal à trouver des points d'accroche sur sa politique, intérieure ou extérieure, ils sont plutôt sur la famille qui est soupçonnée de corruption. Les proches du Premier ministre ont coup sur coup fait l'objet de graves accusations ces derniers mois. Son frère d'abord a été mis en examen en septembre dans le cadre d'une enquête pour malversation et trafic d'influence, accusé d'avoir obtenu un poste public taillé sur mesure et de résider au Portugal pour éviter l'impôt espagnol, tout en négligeant ses fonctions. Mi-avril, c'est au tour de Begoña Gómez, la femme du chef du gouvernement, son épouse, d'être inculpée pour corruption. Le juge Juan Carlos Paenado a ouvert l'enquête en avril 2024, donc il y a un an, pour déterminer si elle avait profité de son statut d'épouse du Premier ministre pour obtenir des avantages personnels. Dans les deux cas, les investigations ont été lancées après... Donc, je constate qu'il n'y a pas de poursuite judiciaire contre le chef du gouvernement espagnol, mais contre deux de ses proches. Des investigations ont été lancées à la suite de plaintes déposées par qui ? L'association Manos Limpias, main propre, connue pour ses liens avec l'extrême droite espagnole. Tiens donc. L'opposition a appelé à plusieurs reprises à la démission de Sanchez. Il y a des juges qui font de la politique et des politiciens qui administrent la justice, a rétorqué le Premier ministre espagnol, qui a le verbe aussi haut à l'extérieur qu'à l'intérieur. Vamos ! Voilà. Merci Réjoxy. Merci pour ton message. Bah, intéressant, hein ? Pas mal ce papier du Parisien là. Moi je connaissais, j'avais pas beaucoup d'infos dans ma petite tête sur le Premier ministre espagnol là. Je refais la blague de tout à l'heure sur le Premier ministre espagnol que vous voyez ici. Je pense que c'est son garde du corps en vrai. Le regard en alerte comme ça là, hein, tel un ninja. Et maintenant c'est un peu plus clair pour moi. Alors on va poursuivre le débat avec un édito dans Libération d'un spécialiste de poétique, Jonathan Boucher-Petersen, qu'on a reçu dans l'Hebdo Étienne à une époque sur cette chaîne Twitch, qui se demande est-ce que l'Espagne de Pedro Sanchez, c'est un modèle qui devrait nous inspirer ou pas. Voilà. Et vous allez voir que il va dire oui, mais hola Mick qui me dit hola Samuel, una pregunta, petite question. Tu connais pas le personnage? Non, je ne connais pas directement effectivement le Premier ministre espagnol. Je ne connais pas tous les gens dont je parle. Je ne connais pas Trump. Je ne connais pas le pape. Je ne connais pas Poutine et je m'en porte très bien. Mais par contre, je lis des articles sur eux. Donc très bonne remarque de ta part. Tu ne connais pas le personnage. Du coup, tu te fies avec un S, je suis pas sûr, à ce que dit le Parisien ou tu vas lire d'autres sources. Alors. C'est un choix éditorial. Le matin, je vous lis des journaux, je vous lis Le Monde, tous les matins depuis 5 ans, enfin personnellement depuis 30 ans, mais depuis 5 ans ici, Le Monde, Le Parisien, Libération, Le Figaro, La Croix, L'Humanité, L'Opinion, Les Échos, L'Équipe, et puis j'ajoute Mediapart et le HuffPost de plus en plus. Voilà, ça c'est des choix éditoriaux, ça s'appelle. C'est-à-dire que moi, dans ma consommation journalistique personnelle de citoyen, c'est les médias que j'aime bien lire, voilà. Et que je lis pour le coup depuis 30 ans. Donc j'ai un peu de recul et je trouve que ces médias sont plutôt rigoureux. Alors ça se trompe, c'est parfois, évidemment c'est un travail humain, donc parfois c'est approximatif, parfois ils se gourrent complètement. Voilà. Mais globalement sur 30 ans de recul de consommation de ces journaux, je suis assez content. Je trouve que globalement ils font le taf. Donc alors, je ne connais pas directement le Premier ministre espagnol, hein, malgré ma maîtrise évidente de cette langue, je suis quasiment bilingue en espagnol, pas du tout. En revanche, oui ces journaux... Je trouve que globalement, ils font leur taf. Donc si les autres... Par contre, quand tu me dis, est-ce que tu vas consommer d'autres sources? Est-ce que les sources dont tu parles, c'est par exemple... Est-ce que tu pensais à certaines sources en particulier? ça qui m'intéresse. À quelle source tu pensais quand tu dis est-ce que tu vas consommer d'autres sources? Que tu m'invites à consommer d'autres sources. Qu'on compare un peu. Parce que c'est ça en fait, c'est un des trucs difficiles aujourd'hui, c'est on a une profusion d'offres d'infos avec plein de sources différentes et la question c'est lesquelles je consomme, tu vois. Est-ce que tu pensais à des sources en particulier? Voilà. Qui dit autre chose bien sûr, parce que c'était sous-entendu dans ta question, qui dit autre chose sur le... Non, 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 me dit Mick, pour savoir si tu t'arrêtes sur le premier avis, sentiment sur lui. Je parle aussi des infos sur d'autres personnes. Donc, tant pis, bon, le débat s'arrête là. J'aurais voulu que tu m'indiques peut-être d'autres sources qui disaient autre chose sur le Premier ministre espagnol, et notamment qui disent que, je sais pas, le mec est un voleur, ou que c'est un malhonnête, ou qu'il a tout faux. Mais bon, puisque tu ne me proposes pas d'autres sources, je ne pourrais pas les consommer. Ah, tant pis. En revanche, donc, je vais lire Libé, hein, qui estime que dans ce modèle, effectivement, espagnol, il y a peut-être des choses à prendre, mais peut-être pas tout. En tout cas, c'est peut-être compliqué pour nous. Let's go. Bonjour, Breaking News, Trump a encore prolongé le cessez-le-feu. Breaking News, on en a parlé il y a une heure. Let's go. Lisons, Jonathan Boucher-Petersen. Comparaison n'est pas raison, mais l'Espagne, dirigée par le socialiste Pedro Sanchez, apparaît régulièrement comme une voix à la fois claire et singulière dans le concert des nations européennes. Okay. Celle d'une gauche affirmée, qui porte haut ses valeurs sur le plan intérieur comme extérieur. Ok, jusqu'à faire figure de contre-modèle dans une Europe et même dans un monde de plus en plus à droite. Et pourquoi pas de source d'inspiration pour la gauche française qui n'en a pas tant que cela sur le continent? C'est ça la question. C'est ça la question. Est-ce que la gauche française doit s'inspirer de Pedro Sanchez ou pas? Sa décision, assumée sans complexe pour soutenir l'économie et le financement du modèle social de son pays de régulariser 500 000 travailleurs sans papier, va à rebours du durcissement migratoire auquel on assiste depuis des années dans une large partie de l'Europe et notamment en France, sous la pression idéologique des populistes, nationalistes et xénophobes. Donc ça, par exemple, ça met très en colère, cette décision de Pedro Sanchez de régulariser 500 000 sans papier. Bruno Retailleau, le patron de LR, qui dit il est fou de rage. Ah bah d'ailleurs ils en parlent. Il n'y a qu'à voir comment Bruno Retailleau, tout juste désigné candidat de LR à la présidentielle, a illico affirmé lundi qu'une telle décision justifiait de mettre l'Espagne au banc des nations européennes. Retailleau est pour un BANDEF de l'Espagne. Alors heureusement que c'est pas lui qui a la souris avec accès à la modération de l'Union européenne. Sinon, hop, Madrid, pop, un gros Théo éternel. L'Espagne qui loue le... j'adore, viens, viens, viens. Je vous montre les coulisses, regardez, regardez, regardez. On me filme et tout, hein. On me filme et tout. Hein. C'est pour le dernier film de Tom Cruise, c'est ça? C'est pour t'inquiète. Je continue. L'Espagne qui loue le respect du droit international et la défense du multilatéralisme, qui sont l'un comme l'autre piétinés par les ordres à la tête des empires, n'a pas davantage hésité à mettre dès le départ son opposition claire et nette à l'offensive américano-israélienne contre l'Iran, qu'on évoquait tout à l'heure. Quitte à provoquer la colère de Trump. Sanchez a été aussi l'une des voix les plus critiques sur la guerre qu'Israël mène à Gaza, on en parlait tout à l'heure. Donc tout ça, je ne le répète pas parce qu'on l'a dit, voilà, ça c'est sa politique diplomatique. Mais il y a aussi ce qui se passe à l'intérieur. Sur le plan économique, le pays fait aussi des envieux. 2,8% de croissance en 2025, bon la France, on en rêverait, hein. L'Espagne fait figure de locomotive en Europe. Et tous les camps y voient une validation de leurs options politiques, à commencer par la gauche, une partie de la gauche française qui dit, vous voyez, c'est ça qu'il faut faire. Les mesures sociales du Premier ministre sont particulièrement saluées, qu'il s'agisse de l'allongement des congés parentaux, de l'embauche de milliers de fonctionnaires et plus encore de la hausse notable du salaire minimum. Mais aussi, comme c'est le cas en France, du plafonnement des loyers ou de l'indexation des retraites sur l'inflation. Évidemment, c'est là où l'auteur de l'article va commencer à mettre des bémols. Parce que quand on voit ça, on se dit, bah, let's go, on fait comme l'Espagne, quoi. Et puis c'est bon. Mais Jonathan Boucher-Peterson met des bémols dans son article. Il dit, il est difficile de comparer deux pays qui ont des modèles différents, avec notamment une décentralisation beaucoup plus massive de l'autre côté des Pyrénées et un régime parlementaire où les alliances sont fragiles. Il faut en outre noter que malgré le dynamisme du PIB que j'évoquais là en Espagne, la bonne croissance qui va bien, le niveau des salaires en Espagne reste en dessous de ce qui se pratique en France. Tandis que la fiscalité des entreprises y est autrement plus légère et que le tourisme de masse conserve un poids absolument majeur dans l'activité économique du pays. En mars, le pays a en tout cas battu un record historique avec plus de 210 000 emplois créés et un chômage en baisse continue. Après la cure d'austérité que le pays a connue il y a une dizaine d'années et qui fut autrement plus dure que ce qu'on a vécu en France, ce que la gauche passe sous silence mais que la droite souligne, il est indéniable que l'Espagne de Sanchez a fait le choix d'une relance sociale par la croissance et la consommation qui n'a rien à voir avec la politique menée par Macron et ses premiers ministres depuis 2017. Ce qui n'empêchera pas la retraite en Espagne de passer à 67 ans en 2027, loin des refrains de la gauche française. Et il faut aussi avoir en tête que le budget n'a pas été voté depuis 2023 en Espagne, hein, ce qui n'est pas vraiment un idéal démocratique, hein, parce qu'ils ont, comme nous, des problèmes à établir leur budget, et que l'Espagne, comme l'Italie, profite également d'être le deuxième plus gros bénéficiaire du plan de relance européen post-Covid. Voilà qui n'est pas étranger, dit Libé, à ses bons indicateurs économiques, et les observateurs les plus sévères, c'est ça que j'aime bien dans cet article, c'est que il nous donne deux regards sur le truc. Et les observateurs les plus sévères préfèrent parler d'un mirage à propos de l'Espagne plutôt que d'un miracle dont il suffirait de reproduire les recettes, par exemple en France. La vérité est probablement entre les deux, dit le journaliste, et parce que tout n'est pas rose en Espagne, l'extrême droite y progresse, malgré tout fortement, avec Vox, le parti, comme dans le reste de l'Europe. La majorité des régions les plus puissantes sont déjà dirigées par une droite qui s'est radicalisée au fil des années. Derrière ses succès, Sanchez vit aussi des moments compliqués. Son ancien ministre des Transports est figure déterminante de son ascension et l'un de ses plus anciens conseillers comparaissent depuis le 7 avril devant la Cour suprême pour des contrats irréguliers de vente de masques pendant le Covid-19. Sa femme, Begoña Gomez, vient d'être inculpée pour détournement de fonds, trafic d'influence, corruption et appropriation illicite. Elle nie les faits, mais cela entache évidemment le bilan de son mari, dont la situation politique est aussi fragile que la croissance de son pays. Donc, modèle, peut-être, qu'il faut regarder, qu'il faut analyser, qu'il faut observer, dont il faut peut-être s'inspirer, mais peut-être pas non plus une recette magique, nous dit Libé ce matin. Je vous lis et on enchaîne. Il y a Bulle Bizarre qui nous regarde depuis l'Espagne, qui nous dit « Je vis en Espagne, franchement, on est pas mal. » Ah bah l'Espagne, c'est formidable l'Espagne. Marquito dit « Je vois pas en quoi ça entache le bilan du président, ce sont deux choses strictement différentes. » Bah ça abîme son image politique, voilà. Sûrement une partie du soutien de la population. Je suppose qu'il y a des élections régulièrement en Espagne et certains pourraient, pourquoi pas, retirer leur soutien à Pedro Sanchez en raison de la corruption supposée de son entourage. Comme le dit MMG, ça abîme une forme d'intégrité. Est-ce que votre candidature pour 2027 est toujours maintenue, me demande Lina. On réfléchit. Quelle heure il est ? 13, il reste 45 minutes. Je surveille le timing. Il faut qu'on enchaîne. Faut qu'on enchaîne parce que là j'ai du lourd qu'on va partager avec nos amis de YouTube. C'est ça. Je prends mon ton mystérieux. Amis de YouTube, bonjour. Je prends un ton mystérieux. Nous sommes en direct dans la revue de presse que je fais tous les matins sur Twitch et avec les amis de Twitch, on voulait partager avec vous cette information. Parce que c'est bizarre. C'est bizarre ce qui se passe aux États-Unis. Article dans Le Parisien. Aux États-Unis, 11 scientifiques ont mystérieusement disparu. Ces chercheurs travaillant sur l'espace ou le nucléaire, pour les plus grandes institutions américaines, ont été tués ou sont portés disparus. Une série de faits divers qui interrogent jusqu'à la Maison Blanche. Mystère. Bizarre. Voilà. Franchement, j'aurais trouvé ça sur internet, sur un site que je connaissais pas, j'aurais pas cliqué, je me dis que c'est faribole. Mais bon, le journal est plutôt sérieux, donc lisons. qui est pas ça. 27 février, Nouveau-Mexique. Susan McCalland Wilkerson se presse. 11h passées, la retraitée est attendue pour un rendez-vous médical. Elle claque la porte de son domicile, laisse son mari à l'intérieur. Depuis quelque temps, cet ancien haut gradé de l'US Air Force divague, perte de mémoire, fatigue, brouillard mental, mais ce jour, tout semble aller bien. Pourtant, à midi, quand elle rentre, Susan, chez elle, William n'est pas là. N'est plus là, évidemment. Et étonnamment, sans prévenir. Ses lunettes de vue, son téléphone et sa montre connectée, qu'il a l'habitude d'emporter partout, sont sur la table du salon. Les véhicules du couple sont dans le garage. Seul un sac à dos, une paire de chaussures de randonnée et un calibre 38, une des nombreuses armes de l'ancien militaire, manquent à l'appel. Susan donne l'alerte, les forces de l'ordre sont déployées, elle ratisse la ville sans trouver la trace du sexagénaire, à l'exception d'un sweatshirt. Plus d'un mois et demi après, William Neil McCallan n'a toujours pas donné signe de vie. Le vétéran s'est évaporé avec les secrets d'État accumulés tout au long de sa carrière. C'est un ancien haut gradé de l'US Air Force. L'affaire a vite été reliée à d'autres disparitions énigmatiques. Ces quatre dernières années, 11 personnes, surtout des scientifiques, ont trouvé la mort dans des circonstances troubles ou ont disparu. Elles ont toutes travaillé pour des institutions américaines prestigieuses et confidentielles. D'un laboratoire ultra secret de technologie atomique à la NASA. En passant par le département de la guerre et le FBI, elles avaient accès à des données capitales en matière de conquête spatiale ou de nucléaire. Depuis la révélation de cette série noire, les théories du complot pullulent, bien sûr. Beaucoup d'internautes estiment que les disparitions ont un lien avec les travaux des protagonistes, plus ou moins proches des questions de vie extraterrestre. Une hypothèse balayée par Romuald Sciorra, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS. Imaginons que les autorités américaines cachent des choses sur le sujet. Il faudrait qu'elles aient eu accès à des informations extraordinaires pour justifier leur élimination. Il paraît plus probable qu'ils aient été tués pour leur connaissance, non pas en matière spatiale, mais nucléaire. Selon lui, le concours de circonstances entre ces événements est peu probable. Le mec, il dit, bon, arrêtez avec l'espace, je crois pas, non. Il dit nucléaire, et il dit quand même, le gars, hein, qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules, le concours de circonstances entre ces événements est peu probable. Il y a trois possibilités. La première, leurs disparitions successives sont un hasard, mais ça paraît un peu gros. La deuxième, ils ont été éliminés dans le cadre d'une opération interne des États-Unis, mais je n'y crois pas. Le plus probable, selon moi, est une ingérence étrangère. Dieu. Les sujets de défense de nucléaire peuvent être considérés comme dangereux par d'autres pays. Ce genre de série d'assassinats peut représenter une stratégie pour les services secrets d'une puissance concurrente. Romuald Sciorra imagine peu de nations avec des moyens assez considérables pour mener une opération de cette ampleur. Bon, bah, on voit à peu près où les regards se tournent, hein. Bien que cela reste hypothétique, mes soupçons se tourneraient vers la Chine. C'est la seule puissance en capacité de faire cela. Il souligne que plusieurs interventions de ce genre ont déjà été menées ailleurs. En juin dernier, Israël avait éliminé 16 chercheurs du premier plan du programme nucléaire iranien. Askeladd, le hack de l'ANTS, on en a parlé hier dans la revue de presse. Hypothèse aussi évoquée par James Comer, président de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, l'élu républicain a reconnu avoir cru à une sorte de théorie du complot farfelu, la première fois qu'il a entendu parler de ces disparitions. Jusqu'à ce que les détails lui soient présentés, il a affirmé que le sujet était devenu l'une des priorités du Congrès. Donc vous voyez, si je vous en parle ce matin, c'est que le truc est quand même pris très au sérieux au plus haut de l'État américain. Et qu'il s'agissait d'une menace pour la sécurité nationale. Même Trump a déclaré jeudi dernier prendre très au sérieux ces disparitions. Deux points ouvrez les guillemets. J'espère que c'est un hasard, mais nous le saurons d'ici une semaine et demie. Bon, quand Trump donne des dates, faut pas faire attention. Il a un rapport au temps qui est un peu particulier. Voilà. C'est fou, non? Et là, on a les parcours de chaque personne disparue ou morte. Voilà. Amy Eskridge, la première victime, par exemple. L'enquête sur sa mort avait été classée avant de réapparaître ces derniers jours. 34 ans, chercheuse en propulsion expérimentale, retrouvée morte à son domicile en juin 2022, tuée d'une blessure par balle à la tête, semble-t-il auto-infligée. Avant son décès, elle tentait de développer une technologie anti-gravité censée révolutionner les voyages spatiaux. Ouais. Ok. Un haut gradé, William Neil McAllen, c'est le dernier nom de la liste. Ça, on en a parlé déjà. Il a disparu depuis février, on ne sait pas où il est. Il est pourtant en possession de milliers d'informations confidentielles. L'ex-commandant de 68 ans occupait les postes les plus sensibles de l'armée de l'air, parmi lesquels la direction du laboratoire de recherche sur la base aérienne de Wright-Patterson, connu pour avoir, dit-on, abrité des débris extraterrestres. J'essaie de faire la musique d'X-Files, mais je suis nul. Bref, la musique d'X-Files. Vous la mettez dans votre tête. Trois chercheurs de la NASA disparus. En 2 ans, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, spécialisé dans l'exploration spatiale, a perdu 3 de ses membres. C'est la disparition de Monica Jacinto Reza, spécialisée dans la conception de moteurs de fusée, lors d'une randonnée en forêt qui a éveillé les soupçons. Donc elle, on ne sait pas où elle est. 1 an avant elle, Frank Maywald était mort de cause jamais communiquée. En juillet 2023, le physicien Michael David Hicks avait connu la même fin, autre décès non expliqué. Il y a Sir Bong Cloud qui écrit « Heureusement, en tant que chercheur, je suis moyen, je dois donc être safe, il faut absolument que je le reste ». Alors il y a 2 employés aussi de Los Alamos qui n'étaient pas à proprement parler scientifiques mais qui ont disparu aussi. Melissa Casias, assistante administrative de 53 ans. Anthony Chavez, employé à la retraite de 79 ans, qui avaient tous deux accès au laboratoire confidentiel de Los Alamos, connu pour avoir développé la bombe atomique. D'autres cas troublants, cette liste macabre est complétée par des profils plus éclectiques. Carl Grillmer, astrophysicien abattu devant sa maison de Los Angeles en février. Astrophysicien. Loureiro, professeur de génie nucléaire, retrouvé mort à Boston le 15 décembre. Tous les deux avaient été récompensés pour leur travail sur l'univers et le plasma. Voilà, il y a d'autres exemples. Bon, voilà, étrange, mystérieux. Je ne me serais pas permis de vous en parler si... ces interrogations n'étaient pas partagées au plus haut de l'État américain. Manifestement, on est au-delà de la rumeur Facebook. C'est des questions, quoi. Je vous lis. Amis de YouTube, je suis en train de lire le chat Twitch et ses réactions. N'hésitez pas, vous aussi, à commenter cette vidéo. Voilà, et à vous abonner à cette chaîne YouTube qui est en train d'exploser. Je vous lis. Laissez Elon Musk en dehors de ça. Il y a quand même des gens qui me parlent de, qui me demandent si Elon Musk a un alibi pour toutes ces disparitions et ces meurtres. Je vous vois, hein, je vous lis. Hein. Si les Chinois arrivent à faire ça sur le sol américain, c'est quand même très fort, me dit Diesel. Ça donne... Bliss me dit, ça va pas donner envie de faire les études, ça. Hein. La réalité dépasse la fiction, me dit Dawa. Waouh, Leader Mew nous dit carrément ça peut être aussi un nettoyage interne pour éviter des fuites vers des états ennemis. Voilà, Val Yaran, il va de sa petite théorie, une puissance étrangère cherche peut-être à ralentir la recherche des États-Unis pour le voyage spatial. Certains évoquent la CIA. Blist me dit, Samuel, à la lumière de ces révélations, te sens-tu en danger ? Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose et après on passera au sujet suivant. Et je ne le répéterai pas. Mark my words. Quand je rentre chez moi, après le travail, le soir, quand je m'engouffre dans la porte cochère de mon immeuble, toujours systématiquement, je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule, tel un shinobi. Droite, gauche et derrière. J'ai des yeux derrière la tête. Je regarde. Et je referme toujours la porte derrière moi, regard vers la rue, avant de franchir la deuxième porte du sas. Mais c'est pas en lien avec cette affaire. C'est en lien avec une autre affaire dont je vous parle très bientôt. Allez, on enchaîne. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah oui, c'est Squeezie. Allez. Squeezie qui a vu les droits d'une de ses vidéos achetées par Banijay. Alors bon, ça c'est... J'adore. Il y a Calunaria dont je salue le message qui nous dit, c'est son premier message, mais c'est un message qui a de la gueule, qui nous dit « Bravo, tu as acquis les réflexes de base des meufs. Ah ah !» J'adore ton message. Alors, vous savez, dans ce débat sur... Voilà, les médias traditionnels sont en train de souffrir, télé, radio, presse écrite, on va en parler d'ailleurs à la fin avec le monde très inquiet du délitement de la presse locale en France, régionale. Voilà, donc, dans cet affaiblissement des médias traditionnels, la montée en puissance des nouveaux médias, des nouvelles plateformes, des réseaux sociaux, des Twitch, YouTube, Insta, TikTok et consorts, eh bien, la question est de savoir si les médias traditionnels vont réussir à se réinventer, créer des passerelles entre l'ancien monde des médias et le nouveau, pour sauver leur peau. Voilà. Et là, on a une info dans Figaro Économie sur Banijay, qui est une des plus grosses boîtes de prod en France, qui acquiert les droits d'adaptation d'une vidéo YouTube de Squeezie. Squeezie, petit créateur YouTube que vous connaissez peut-être. Les productions YouTube font saliver les géants de la production audiovisuelle. Le français Banijay a annoncé hier, c'est tout frais, avoir acquis les droits mondiaux. Les droits mondiaux d'un concept inventé par le YouTuber star Squeezie afin d'adapter à l'international. Cette vidéo que vous connaissez, nommée qui réussira à stopper le train, a été publiée en septembre 2025 et a accumulé plus de 15 millions de visionnages. Je ne l'ai pas vu. Peut-être que vous l'avez vu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo de Squeezie qui réussira à stopper le train. Hein ? Signé Unfold, la société de production de Squeezie, ce jeu de 90 minutes réunit 10 créateurs de contenu français qui doivent réussir plusieurs épreuves de haute voltige dans un train lancé à pleine vitesse. Elle aurait coûté 800 000 balles à produire, ce qui serait le concept le plus ambitieux de la chaîne YouTube de Squeezie. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo ? Qui était pas folle en vrai, me dit Tortue à chaise. Voilà. Big flop cette vidéo de base déjà, me dit Mount Mathieu. Elle est ok tiers la vidéo pour le budget investi, me dit Sugar. Plutôt cool, mais c'est vrai que le concept est très télécompatible, me dit Roi de la Chantant. Il est cool ce projet, mais d'autres sont mieux à mon sens, me dit Nuwanda. Vidéo très ambitieuse et divertissante, me dit Yuki. Pas fou pour Sarah, sympa pour Mr. Ngaming. Ok, partagez. La vidéo bof, me dit Mathieu, mais le concept peut être bien. Ok. Intéressant. Ok, quoi. Grosse prod, mais pas ouf en termes de divertissement, me dit Ayam Lana. Peut-être que c'est très télécompatible cette histoire. Hein ? En tout cas, merci pour vos messages. Ce format né sur YouTube et populaire auprès des fans a selon nous un très fort potentiel de développement à l'échelle mondiale pour toucher des publics sur de nombreuses plateformes à travers le globe, déclare le groupe Banijay. Stop the Train, tel qu'il a été rebaptisé en anglais, pourrait donc voyager sur divers services de streaming, donc mais à l'étranger, hein, voire sur la télévision linéaire, donc ce qu'on appelle la télévision linéaire, c'est la télé classique, quoi, avec un casting localisé de stars des réseaux sociaux. Donc en Allemagne, des créateurs de contenu allemands, en Espagne, espagnol, vous avez bien compris le principe. Banijay est habitué à ce type d'adaptation, lui qui détient les droits mondiaux des émissions télé telles que LOL qui ressort, diffusé en France sur Amazon Vidéo, ou encore Ninja Warrior sur TF1. Le groupe s'intéresse aussi aux réalisations des créateurs de contenu et acquis en décembre les droits mondiaux d'un concept de l'influenceur finlandais Roni Back, le plus grand cache-cache de Finlande. Banijay a également créé aux Pays-Bas une équipe de football associant influenceurs et joueurs amateurs et qui évolue en 5e division. Les mondes de la télévision et de YouTube tendent à se rapprocher. Alors, moi, c'est un truc qui me passionne. J'aimerais me pouvoir projeter dans 30 ans, même dans 10 ans, même dans 5 ans, pour voir comment cela a évolué. Est-ce que les médias traditionnels ont réussi à se remettre en question? Est-ce qu'ils ont réussi à se réinventer pour faire face à la fuite lente, mais permanente et massive au final de leurs auditeurs, de leurs téléspectateurs, de leurs lecteurs? Ou est-ce qu'ils vont être croqués, bouffés par les nouvelles plateformes, quoi? C'est la question. RMC Découverte diffuse ainsi en avant-première des productions des influenceurs Joyka et Antoine S2S. Alors je sais que c'est Joyka qui a vu un de ses concepts diffusés, mais en avant-première sur RMC. Ok. Je sais pas qui est Antoine S2S. C'est qui Antoine S2S? Pardon. Je connais pas tout le monde là. C'est qui Antoine S2S? Vous connaissez? Scoot de Street. Scoot, d'accord. Ah, ça me dit quelque chose. Scoot de... Pourquoi je connais? Ah, ouais, j'ai regardé ça un moment. Le mec des trottinettes? D'accord. D'accord. Oh, mais attends, c'est pas un mec. Tu l'as croisé à la Défense Arena pour les JO des streamers. D'accord, ok. Mais attends, mais moi, ça me dit quelque chose, ça. Je lis vos messages. Scoot de Street. Scoot. Non, ça me disait quelque chose, mais. Tu l'as croisé en soirée coquine, peut-être. Quoi? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est terminé. Ils vont récupérer des concepts déjà créés. Ça ne va pas attirer. Vous n'y croyez pas, vous, à cette réinvention des médias traditionnels, y compris avec l'aide ou avec le rachat de formats Internet. Voilà, MMG se demande si les médias traditionnels misent sur les influenceurs pour sauver leurs pommes ou bien. En voyant ça, me dit Ben Tatko, je comprends pourquoi je n'en ai plus la télé depuis 10 ans. Je vous lis. Hein. Le jeu pourrait être très bien pour l'été, genre un Fort Boyard-like. Ouais, mais après, il faut des moyens, quoi. Après, il faut des moyens. Le problème, c'est que c'est très bien des projets ambitieux comme ça, mais manifestement, là, quand je vois le prix de la vidéo de Squeezie, on parle de 800 000 balles. Je vais vous surprendre, mais aujourd'hui, je connais pas beaucoup de chaînes de télé qui sont capables de mettre Attendez, j'ai un faux du bus, un shiny, je vais vous le donner dans un instant. J'ai un cadeau shiny pour vous dans un instant. Martin, reste avec nous, j'ai besoin de lire tes messages. Aujourd'hui, avec la baisse des recettes publicitaires que MMG évoque à l'instant, avec, prenez France Télévisions, la réduction des budgets de partout, mais c'est compliqué aussi pour TF1 et M6, un peu moins c'est vrai, parce qu'ils ne dépendent pas de l'argent public, donc pour l'instant ça va un peu mieux. Mais 800 000 balles unitaire. Par exemple, là, vous venez de voir que Fort Boyard, non pas Fort Boyard, Interville, qui devait revenir cet été sur France Télévisions, il y a quelques jours, France Télévisions a annoncé que Interville n'allait pas revenir. Et on pense que c'est pour des raisons budgétaires. Et pourtant, c'était un Interville, entre guillemets, pas trop cher. J'ai cru comprendre qu'on avait demandé au producteur, donc Nagui, si je dis pas de bêtises, de faire un truc pas trop cher parce que y a pas de sous, quoi. Donc si c'est pour prendre ce truc de Squeezie mais le faire en moins bien avec moins de budget, je suis pas sûr que ça fasse venir un nouveau public, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est beaucoup d'argent quand même. Nanto dit le problème c'est que les jeunes ne regardent plus la TV de nos jours. C'est ça la question de la stratégie, c'est est-ce que les médias traditionnels doivent essayer de faire revenir ceux qui sont partis, notamment les jeunes, sur leurs antennes, ou est-ce qu'il faut qu'ils aillent sur une nouvelle plateforme pour inventer de nouveaux formats, par exemple sur YouTube, pour dire les choses simplement. Le problème, c'est que là, ça pose la question du modèle économique. Parce que faire de l'espace pub à la télé, ils savent faire, c'est leur métier, pour financer tout ça, pour parler des chaînes privées. Mais trouver le modèle économique qui va aller avec des formats non plus mis sur la télé linéaire, mais par exemple sur YouTube, ça, c'est un nouveau métier. Et là, pour l'instant, pour le vivre un peu de l'intérieur et de regarder un petit peu tout ça de façon intéressée, ils n'y arrivent pas. Je vous lis, et après on va aller voir l'historien de notre ami Martin 4i5y, l'historique, histoire de se faire plaisir. Je vous lis. C'est mort, me dit Esco. Quand tu connais Uber Eats, tu vas plus chez Flunch. Mais peut-être qu'on se trompe, hein. Peut-être que la télé, hein, pour parler d'elle, va réussir à se réinventer, hein. Alors donc, notre Martin là. Alors, premier message le 22 avril. Donc c'est un nouveau venu. Bienvenue Martin, hein. Bienvenue, ça fait plaisir. Alors 9h26, Martin a écrit, mais je savais pas de quoi il parlait, donc j'ai pas fait attention. LOL. Okay, mais qui dit LOL en 2026 par contre déjà ça? Donc déjà, c'est une personne d'un certain âge, je pense. Je pense qu'on n'est pas très loin de la retraite. LOL, le mec est d'un parti politique d'extrême droite. Comme je ne savais pas de qui tu parlais, je n'ai pas commenté. 9h28, déjà, on n'a plus de LOL. Vu que tu es d'un parti politique d'extrême droite, tu vas forcément le détruire. Là, je pense que ça parlait du chef du gouvernement espagnol. Et là, je me demande, attends, c'est moi le mec qui est d'un parti politique d'extrême droite? Je suis d'un parti politique d'extrême droite? Lequel? 9h32, vu que tu es d'un parti politique d'extrême droite, je suis méfiant. Alors la fin de la phrase a changé, hein. Voilà. Et enfin, le retour de LOL à 9h36, LOL, c'est pas faux ce que je dis. Donc si c'est pas faux, c'est que c'est vrai. Voilà. Et Martin, et 9h37, donc J'ai mis le doigt sur son âge, parce que LOL pour moi c'est une personne âgée. Hein. Et je pense qu'on a visé juste 9h37, on s'en fiche de mon âge, t'inquiète. Bon mon Jean, je suis en train d'analyser l'historique de Martin qui m'accuse
de quoi,
Jean Massier, de faire partie d'un parti politique d'extrême droite. Ah, et je demande lequel.
C'est bien connu.
Oui. Michel, t'es beau dis donc.
Mais c'est toi qui es beau.
Mais non, t'es tout shiny.
Moi, je passais juste faire un caméo pour dire bonjour au chat.
Eh, c'est Jean. C'est content de te voir. Ça va,
ça
je t'ai vu là dans ton édition sur le Sénat, c'était super.
T'as vu, j'avais mis une belle veste. Hein.
Oui, mais il y avait.
Tu sais que c'est le chat qui a choisi la veste.
Oh, t'étais, la commu l'avait remarqué que t'étais élégant. Mais c'était bien, c'était vachement intéressant.
Ouais.
Tous les trois là, avec Gaspard G.
Ouais. Ouais, avec les sénateurs. Et franchement, les questions étaient intéressantes. Le sujet était intéressant.
Ah bah ça change, ouais.
On sait pas très bien à quoi ça va servir. Mais c'est toujours sympa de discuter avec des sénateurs.
Et puis, c'est des élus de la nation qui font leur travail sérieusement, avec rigueur. Et qui ont travaillé.
Ça change de certains de mes collègues qui en ont connu d'autres. C'est, non, mais vraiment, tu sais que j'ai eu beaucoup de parallèles en disant, parce qu'il y a quand même pas mal de gens dans ma communauté qui ont découvert la commission d'enquête du Sénat en se disant ah, mais c'est ça une commission d'enquête en fait.
Ah, bah oui.
Sous-entendu, une vraie.
En fait, celle-là, elle est à peu près normale. C'était
normale.
L'autre qui est bizarre.
Des échanges intelligents, précis, pointus sur des sujets complexes. c'est pas la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. La commission d'enquête de l'Assemblée nationale, c'est une version dégénérée. C'est pas comme ça que ça se passe d'habitude. Voilà. Et toi, je sais que t'en as fait les frais.
Mais l'histoire est pas terminée, je te raconterai.
Ah, faudra que tu me racontes. Non, je passais juste une tête pour vous rappeler qu'il y a MVP hein, qui commence à quelle heure ?
Dans 20 minutes.
Dans 20 minutes, voilà. Et je serai dedans.
Et en vrai, il y a un sujet super intéressant, c'est il y a une espèce de désaffection des Français au travail,
ouais.
Des gens de moins en moins motivés,
ouais.
Plus en plus d'arrêts maladie. Donc on va se poser des questions là-dessus.
Okay.
Je suis sûr que tu as des trucs intéressants à nous dire. On a un psychologue du travail qui est hyper intéressant.
Ah, trop bien, pour parler de ça justement.
Ouais, et il se trouve que j'ai lu un article de lui dans la presse il y a quelques jours qui est notamment une explication à apporter sur les arrêts maladie qui explosent notamment chez les jeunes. Donc on connaît le discours, ah les jeunes vous êtes vraiment un tas de feignants. Et lui il dit, peut-être voir la responsabilité des entreprises là-dedans.
Ok, intéressant.
Pas mal, hein.
On discute dans MVP dans 20 minutes les copains.
Avec Jean Massier.
À tout à l'heure.
Merci Jean. Incroyable ce pop-up. Donc Martin, je reviens à toi, merci beaucoup. Hein. Voilà. Alors moi j'aime bien quand les gens m'accusent d'être. Alors ça dépend des messages. Hein. D'être d'extrême gauche, d'extrême droite, social-démocrate, crypto-communiste, anarcho-trotskiste, soutien de l'extrême droite parce que je donne la parole aux élus de ce camp. Et que je lis dans le chat des gens qui partagent ces idées. Voilà. Continuez à m'accuser de tout ça. Si globalement on peut m'accuser de tout ça en même temps, c'est que globalement je fais à peu près mon travail, quoi. Voilà. Le célèbre facho, extrémo, gaucho, islamo-communiste, c'est moi. Voilà. Martin, tu m'as régalé. Merci beaucoup. Je suis polyvalent, bien sûr. Alors, bon, c'est cool d'avoir l'ami. Voilà, ça prouve que tu es de l'extrême centre. Encore une accusation, tu vois, gratuite. Un jour, je vais vous dire pour qui je vote. Voilà. Et vous allez tomber de votre siège. Je voterai pour moi, puisque je vais me présenter bientôt à la présidentielle. Ça va être bientôt réglé, cette histoire. Il nous reste 20 minutes pour deux sujets passionnants. Voilà. Le suivant, c'est justement, on va parler des réseaux sociaux, hein, des plateformes, des algorithmes, avec un article génial qui nous dit attention, l'attention humaine, notre attention, hein, notre temps de cerveau disponible, comme avait dit un patron de TF1 à une époque. L'attention humaine, non, n'est pas un produit comme les autres. Voilà. C'est une tribune, c'est-à-dire. Ce sont des gens qui prennent la plume et qui ont proposé cet article au journal Le Monde. Et ces personnes, ce sont des qui ? Des scientifiques ? Lisons. Il y a un psychiatre, il y a le président d'une fondation, il y a un professeur de psychiatrie et médecin du sommeil, il y a une enseignante de philosophie et chercheuse, et il y a une psychologue clinicienne. Okay. Et ils prennent la plume pour nous dire ça. Voilà. L'attention humaine n'est pas une ressource industrielle comme une autre. L'être humain n'est pas fait pour une stimulation continue. Rappellent plusieurs spécialistes insistant sur la nécessité de mettre en place une protection renforcée des mineurs. Les décisions rendues récemment aux États-Unis marquent peut-être un tournant majeur. Je vous en ai parlé. Je vous en ai parlé. Le 24 mars, un jury du Nouveau-Mexique a condamné Meta à 375 millions de dollars d'amende pour avoir, selon lui, nuit à la santé mentale et à la sécurité de mineurs. Il commence à... Oh bonjour ! Mais c'est pas Clotilde !
Non, Clotilde n'est pas là.
Comment vous appelez-vous ?
Mariam.
Ce matin, c'est Mariam qui va me faire shiny, me faire beau, me rendre présentable. Mariam, merci beaucoup. Ça va aller ?
Oui, ça va aller.
Je continue à lire mon article.
Oui.
Tu fais... Voilà, si je t'embête trop, tu me dis. Hein. Tout le monde te dit bonjour. Bonjour, bonjour Mariam. Voilà, la restauratrice en patrimoine, exactement. Voilà, exactement. Oh, tout le monde te dit bonjour, c'est trop mignon, c'est trop pipou. Oh, regarde-les, ils sont cool. En tout cas, merci beaucoup. On est en train de lire un article sur le temps de cerveau disponible et le fait que, justement, il y a des gens qui commencent à dire « basta, c'est assez ». Décision de justice aux États-Unis qui a condamné Meta à 375 millions de dollars. C'est pas rien, hein. Pour avoir nuit à la santé mentale et la sécurité des mineurs. Le 25 mars à Los Angeles, un juge a jugé Meta et YouTube, un autre procès donc, responsable d'avoir conçu des produits favorisant l'addiction d'une jeune femme mineure au moment des faits, 6 millions de dollars de dommages et intérêts au total. Dans les deux cas, le débat s'est déplacé. Il porte plus non seulement sur les contenus, mais sur la conception même des plateformes et notamment l'algorithme. Ce déplacement est essentiel. Hein. Avant, on disait « Ah, c'est embêtant sur les réseaux sociaux, il y a des contenus problématiques. » Aujourd'hui, le discours, c'est y a un problème de contenu, mais le problème, c'est les plateformes. Comme les plateformes ne font pas ce qu'elles doivent faire pour encadrer ces contenus. Qu'est-ce que t'en penses ? Oh, mais dis donc, oui, dis donc. Oh, tout de suite, le glow. Hein. Ah ouais, vous avez vu ? Comme les plateformes ne font pas ce qu'elles doivent faire pour encadrer les contenus, pour... Merci beaucoup. Vous avez vu ? Incroyable. Merci, Mariam. J'ai dû baisser la luminosité de mon écran. J'adore. Et donc, comme ils ne font pas, en termes de modération aussi, ce qu'il faut, eh ben, à un moment, certains acteurs sont en train de se dire, citoyens, justice, politique, bon, bah, les gars, le problème, c'est le contenu, mais c'est aussi le diffuseur, quoi. Ces plateformes, ces réseaux sociaux qui disent « Ah mais nous on n'est pas éditeur, on n'est pas responsable du contenu. » Eh bien, la justice notamment est en train de dire « Bah si !» Ce déplacement est essentiel. Depuis des années, une partie de l'économie numérique repose sur une logique simple. Capter l'attention, prolonger le temps passé, multiplier les interactions. Ça va ? Ah, on sait qui pensons ? Tu veux que je me lève ? Et on met un micro ! Ouais ? Attends, je te le ressors là. Je reviens à vous les amis, on se met un petit micro. Merci à toi. On se le met là. Oui. Hein? Hop. Et une petite oreillette. Merci à toi, c'est gentil. Attends. Comme ça ? Ah oui, Samy. Attends, je la mets tout de suite. Et est-ce que ça marche bien ?
Je peux enlever la petite cale si je veux.
Ça a l'air de... Ah, en fait, la cale, moi, elle. En fait, la forme normale, moi, me correspond bien. Oui, ça te dérange pas ? Parce qu'en fait, je crois que j'ai un conduit auditif qui n'est pas très très large. J'ai des petits trous d'oreille pour dire les choses.
Je connais.
Et là, ça va être parfait. Merci à toi. On est équipé. Et donc, ce passage, il est important. Ce déplacement est essentiel. Depuis des années, une partie de l'économie numérique repose sur une logique simple. Capter l'attention, prolonger le temps passé, multiplier les interactions, transformer cette intensité d'usage en revenu. Il y a des enjeux financiers derrière tout ça, vous l'avez bien compris. Le défilement infini, la lecture automatique, les notifications de réengagement ou certains systèmes de recommandation ne sont pas de simples détails ergonomiques. Ce sont des choix de conception délibérés et ces choix orientent et modèlent les comportements. Vous savez, quand vous scrollez, quand vous êtes sur une plateforme... Tout est fait pour vous garder. Tout est fait et pensé pour que vous restiez, pour que vous consommiez, y compris les petits messages pubs qui vont passer à un moment, etc. Or, et c'est ce que disent ces chercheurs, là, c'est les gens qui signent cette tribune dans Le Monde, l'attention humaine n'est pas une ressource industrielle comme les autres. Pour les neurosciences, elle est une fonction limitée, précieuse, continuellement sollicitée, qui conditionne notre capacité à apprendre, à mémoriser, à discerner, à travailler, à entrer en relation. Quand l'environnement technique fragmente sans cesse nos focalisations, ne prévoit pas de fin d'usage naturel et relance l'usage au moment même où il devrait s'interrompre, vous savez, hein, tu vas au lit tranquille, tu tiens, je vais allumer les réseaux sociaux ou que sais-je, voilà, 5 minutes et puis 2 heures plus tard, t'es toujours dessus, c'est pas de votre faute, c'est fait pour. Il ne se contente pas, cet algorithme, cet outil, ce réseau social d'accompagner nos habitudes, il les façonne en profondeur. Le sommeil rappelle chaque jour cette limite. Nous ne sommes pas faits pour une stimulation continue. Nous avons besoin de rythme, de transition, de seuil, de baisse d'intensité. Et ça vaut pour nous adultes, mais évidemment, et on va en parler, ça vaut encore plus pour les enfants. Un peu de notre faute quand même, mais non, le truc... Bah c'est comme si tu dis au gars qui est tombé dans l'addiction pour la drogue, hein, c'est le même discours, Yoni Blum. Si tu dis à un mec qui est tombé addict à la cam, c'est comme si tu disais bah, c'est de ta faute. Alors que le produit est pensé depuis le début pour que tu tombes dans l'addiction. C'est un peu le même débat finalement. Or, une partie croissante de notre environnement numérique est pensée à l'inverse, sans fin claire, sans véritable point d'arrêt, avec pour horizon implicite la poursuite de l'usage. Les plus jeunes Ils sont particulièrement exposés parce que leurs équilibres attentionnels, émotionnels, de sommeil sont encore en construction. C'est beaucoup plus grave chez les jeunes. Ces constats font écho à des données populationnelles récentes. Pendant la pandémie de Covid-19 et les confinements généralisés, une association a été mise en évidence entre l'augmentation du temps d'écran, la désorganisation des rythmes, les symptômes anxieux et dépressifs, et les altérations du sommeil. Il ne s'agit pas d'opposer stérilement technologie et humanité. Le numérique peut informer, relier, transmettre, soulager, parfois même aider à soigner. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bien. Ah, Paul vient de me parler dans l'oreille. Dans le chat, quelqu'un m'a dit, Paul, il y a 30 secondes, bonjour à Paul dans l'oreillette. Incroyable. Et voilà. Ah oui, il est là, Paul. Viens, Paul. Paul, le rédacteur en chef de MVP. Voilà. Donc tout marche bien.
Ouais, tout marche bien.
J'irai peut-être faire pipi.
Charlotte vient d'arriver.
30 secondes. Charlotte Vautier.
Voilà, on attend qu'elle soit prête.
Parce qu'il y a Charlotte Vautier, il y a Ludovic B. et il y a Jean Massier qui est venu nous voir.
Ouais. Tu veux faire une pause ou pas ?
Je fais une pause pipi à 58.
58 ?
Ouais.
Tu veux que Jean ou Ludo prennent le relais ?
Ouais, par exemple. Mais vers 58.
Je vais les sonder.
Comme ça, j'irai faire un petit pipi. Donc, passionnant cet article. Je rappelle la phrase, une association a été mise en évidence pendant la crise sanitaire entre l'augmentation du temps d'écran, la désorganisation des rythmes, les symptômes anxieux et dépressifs, les altérations du sommeil. Voilà. Il ne s'agit pas d'opposer stérilement technologie et humanité, il y a du bien sûr dans ces outils. Le numérique peut informer, relier, transmettre, soulager, parfois même aider à soigner, mais son utilité ne dispense pas ses concepteurs d'une exigence de loyauté et d'éthique. Car un service numérique n'est jamais neutre, il organise des parcours, hiérarchise des choix, encourage certains comportements, en décourage d'autres. Dès lors, on ne peut pas faire reposer la seule discipline individuelle. Quelqu'un me disait tout à l'heure, ah ben on est un peu responsable quand même. Pas tant que ça. La charge de résister à des mécanismes pensés pour prolonger l'usage. Il revient aussi au concepteur, au pouvoir public, de fixer des limites claires et des règles du jeu plus respectueuses des personnes les plus vulnérables, et on pense notamment aux plus jeunes, aux enfants, aux mineurs. C'est ce que nous demandons, disent les signataires de cette tribune, aujourd'hui en France et en Europe. D'abord, reconnaître publiquement que le design numérique n'est pas neutre. Certaines fonctionnalités doivent être nommées pour ce qu'elles sont, des mécanismes de captation, pour gagner de l'argent. Ensuite, mettre en place une protection renforcée des mineurs, limitation des fonctionnalités les plus compulsives, paramètres protecteurs activés par défaut, encadrement des notifications de réengagement, respect des temps de repos et des rythmes biologiques. Voilà. Il faut demander à ces plateformes, à ces réseaux sociaux, à ces algorithmes de protéger les consommateurs et notamment les plus fragiles, notamment les plus jeunes. Enfin, faire émerger des standards de conception respectueux de l'attention, possibilité de sortie simple, fin naturelle dans les parcours, consentement réel aux sollicitations, transparence sur les logiques de recommandation, mais aussi dispositifs qui rendent l'utilisateur davantage acteur de son usage. Voilà. Ils vont adorer les GAFAM. Quand on va leur imposer ça. Non, ils vont détester, bien sûr. Un service plus respectueux devrait aider chacun à clarifier son intention, venir pour une vidéo précise, pour une recherche, pour un temps limité de détente, et pas transformer systématiquement cette intention en consommation prolongée et passive au détriment de son autonomie. Cette demande n'a rien d'abstrait. Le 6 février, la Commission européenne a estimé à titre préliminaire que TikTok enfreignait le règlement sur les services numériques en raison de caractéristiques de design addictif, citant notamment le scroll infini, l'autoplay, les notifications push et un système de recommandation très personnalisé. Le sujet est donc désormais juridique, politique, sanitaire et profondément démocratique. L'attention, notre attention, notre temps de cerveau disponible, comme disait un responsable de TF1 il y a quelques années, n'est pas un produit. Elle est une condition de notre liberté, de notre sommeil, de notre liberté intérieure, de notre capacité à nous relier aux autres et au monde. Il est temps d'en tirer des conséquences concrètes. Je me permets d'applaudir à cette tribune qui met des mots clairs et très simples sur un vrai sujet essentiel aujourd'hui. Voilà. Et comme le disent certains dans le chat, à nous aussi de nous organiser pour ne pas être tentés par ces trucs qui sont pensés pour être tentants. Culbut, ok. Moi j'ai mis une limitation automatique de mes applis à 1 heure par jour. Après 1 heure, l'appli se coupe, je dois attendre minuit pour la réouvrir, ça m'aide beaucoup. Bien vu le truc, me dit Coreflow Dev, je ne mets aucune de leurs apps sur mon tel, je regarde juste sur le PC. Voilà. C'est pas mal, Alors après, c'est un combat, hein. C'est-à-dire qu'évidemment que les GAFAM, avec les intérêts économiques qu'il y a, ne vont pas se laisser faire. Eh bien, c'est aux citoyens et à son représentant, c'est aux politiques de nous aider à ne pas être bouffés par ces trucs. Voilà. Il me reste 4 minutes, je vais très vite, voilà. Je vais un peu le bâcler, mais ce truc est trop important. Un édito dans Le Monde sur l'affaiblissement de la presse locale, régionale en France et les menaces que ça fait peser pour la démocratie. Je vous le fais en fast parce que c'est essentiel. Le délitement de la presse locale, enjeu démocratique. La saignée est spectaculaire. Depuis décembre 2025, près d'un millier d'emplois ont été supprimés dans la presse écrite française. Cette presse que j'aime bien, vous le savez. Selon le décompte réalisé par Le Monde, environ 10 500 postes détruits depuis 2009. Le phénomène est particulièrement sensible dans la presse quotidienne régionale, ce qu'on appelle la PQR. Partout, les restructurations se multiplient au détriment d'une couverture de l'actualité de proximité qui se réduit comme peau de chagrin. Voilà. Deux niveaux de lecture peuvent être retenus pour analyser cette crise. Sur le plan économique, l'effet de ciseau est implacable. Les revenus des abonnements papier qui s'effondrent, ne permettent plus de financer les investissements dans une transition numérique indispensable. Donc les journaux ont besoin de moyens pour se transformer et aller vers le numérique, comme certains l'ont très bien fait, comme Le Monde par exemple l'a très bien fait, pour prendre cet exemple-là, mais il faut de l'argent. Or, la baisse de revenus des abonnements papier ou de la vente en kiosque rend difficile ce financement. Parallèlement, les plateformes internet aimantent leurs audiences, tiens donc, et vampirise les recettes publicitaires. Mais ce qui se joue dans la fermeture d'une agence locale dans la Creuse ou dans le Doubs n'est pas qu'une question comptable et d'emploi, parce qu'on pourrait se dire, bon bah voilà, on passe d'un modèle à un autre, finalement il y a d'autres journalistes maintenant sur les réseaux, tout va bien. Voilà. Mais ça n'est pas qu'une question d'emploi, c'est aussi un enjeu de démocratie, nous dit Le Monde. L'enquête publiée en novembre 2025 par la Fondation Jean Jaurès et l'association Les Relocalisateurs montre que plus un territoire local dispose de médias actifs, plus la participation électorale et l'engagement citoyen et la confiance institutionnelle sont élevés. A l'inverse, les zones en voie de désertification médiatique voient la dépendance aux réseaux sociaux progresser et les comportements civiques reculer. Il y a une étude aux États-Unis qui a été menée là-dessus. Hein. Aux États-Unis, maintenant, dans certains États, il y a un désert d'informations locales. C'est-à-dire que les journaux locaux ont disparu, les radios locales ont disparu. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces zones-là ? Eh bien, on voit une participation électorale qui baisse. On voit les entreprises qui, sur le plan environnemental, se comportent moins bien parce qu'elles sont plus surveillées par les journalistes locaux. Il y a plein de choses comme ça. Voilà. Surtout, la polarisation politique dans ces endroits s'accentue car le vide laissé par la presse locale a été comblé, hein, la nature a horreur du vide, par des sites déguisés en médias d'information. Hein, diffusant des contenus partisans et mis en avant par les algorithmes de réseaux sociaux qui attisent les clivages. Dans les comtés les plus... Donc là, on parle des États-Unis. Ah ben voilà, c'est l'exemple des États-Unis, justement. Dans les comtés américains, c'est pas les États, c'est les comtés, les plus touchés par la désertification médiatique, le vote s'est radicalisé à une vitesse déconcertante. Dans les comtés américains où il n'y a plus d'infos locales, on constate ça, une radicalisation du vote. Traditionnellement, l'information de proximité est plus consensuelle. En parlant d'enjeux concrets qui rassemblent plus qu'ils ne divisent, quand elles disparaissent, ce ne sont pas les citoyens qui cessent de s'informer, c'est l'algorithme qui prend le relais. Et personne ne peut prétendre que ce relais algorithmique des réseaux sociaux est démocratiquement et qualitativement équivalent à ce que propose l'information locale traditionnelle. Illustration de la gravité de la situation, il y a quelques jours, le directeur de publication du New York Times a pris la parole dans une publicité diffusée sur les podcasts du titre, non pas pour inciter à s'abonner au journal, mais pour appeler à soutenir n'importe quel média pratiquant un journalisme d'investigation sérieux, votre journal local en particulier, que le patron d'un des journaux les plus puissants du monde juge nécessaire de lancer un tel appel en dit long sur la profondeur de la crise. De telles initiatives de ce côté-ci de l'Atlantique seraient les bienvenues, mais surtout le législateur doit s'emparer du sujet de façon urgente. Un projet de loi inspiré par les conclusions des états généraux de l'information lancés en 2023 est censé renforcer l'indépendance des médias, donc là on vient en France, soutenir leur modèle économique et veiller au respect du pluralisme. Même si le texte ne réglera pas tout, il n'a toujours pas vu le jour. Pendant ce temps, les emplois disparaissent et un élément clé du fonctionnement de notre démocratie continue de se déliter. Bon, j'ai un peu été faste sur ça. Mais je voulais absolument vous lire cet édito. 59, l'émission va commencer dans un instant. Je pense que je vais laisser ma place ou à Ludovic ou à Jean le temps que j'aille faire pipi. Voilà, je vais sur fin de live. J'envoie les titres. Hop. à Vincent qui s'occupe de mettre cette revue de presse en podcast audio l'après-midi, voilà, et également à Mathieu qui s'occupe de mettre cette revue de presse sur YouTube et notamment il y a Jean qui vient prendre la place. Regarde Jean, j'ai un logiciel, j'ai une petite app qui permet d'envoyer des titres de ma revue de presse directement à Mathieu qui gère ma chaîne YouTube et à Vincent qui gère mon podcast audio.
C'est trop bien. Ça a été développé pour toi ?
Par un viewer.
Par
Boubou.
Ils sont incroyables tes viewers.
Ils sont incroyables. Voilà, j'envoie. Normalement, ça devrait être bon. Incroyable. T'es fou, hein ?
C'est trop bien.
Voilà. Toc. Fermé. Voilà. Et je te, ça te dérange pas ? Je te laisse la place ?
Je prends, ouais.
Jean prend le relais et moi je vais faire pipi. Ouais. Je viendrai.
Il est où ton chat ?
Tiens, regarde, je vais même mettre. Il est là. Là, et je vais te le mettre là aussi.
Ah ouais, ouais.
Là, voilà, et moi, il est. Et Boubou, il est là, je crois, le dev. Et moi, regarde, je vais même mettre le conducteur, tout va être prêt, incroyable.
Ah ouais, t'es trop
tu
bien.
Peux même anticiper sur le conducteur. Merci, Jean.
Bonjour le chat. Ah, bonjour le chat. Bonjour les copains. Comment ça va ? Content de vous voir. Bonjour. Quelle heure il est-il ? Il est 10h. Est-ce que je vais prêter serment ? Je le jure, la vie de ma mère. Putain, j'aurais dû dire ça au Sénat. J'aurais dû lever la main droite et dire la vie de ma mère. Non, ça y est, j'ai déjà des idées débiles. Qu'est-ce que c'est ? C'est le conducteur de MVP. Ok, très bien. Tac, job dating. Ah non, mais attends, faut pas que je me fasse spoiler, parce que si ça se trouve, il y a des trucs que je dois pas voir, moi. J'en sais rien. Faut pas trop que je regarde l'invité mystère.
Non mais après fais-toi plaisir.
Non t'inquiète. Jean qui hijack la chaîne de Sam. Ah non mais attends, le pire c'est que je débarque avec mon humour et tout, faut faire attention hein. On est chez des gens sérieux ici, on est sur la chaîne de Sam. Merde, quand même. Pardon. Ça rigole pas. Comment c'était la revue de presse ? Est-ce que ça s'est bien passé ? Bonjour, pourquoi Jean est là ? Parce que j'ai été embauché par Sam pour faire la revue de presse à sa place à partir de maintenant. Parce que Sam doit se consacrer à sa campagne présidentielle. Est-ce que tu continues pas la revue de presse ? Il y a quoi à continuer comme revue de presse ? Il a fini la revue de presse ? 9h54, il est 10h. Que ferais-tu différemment de Sam si t'avais la main sur tous ses streams ? Moi je serais un gage de qualité et de sérieux. Mais vous par contre, je vous fais pas confiance hein. Je vous connais hein. Je vous connais, vous allez faire des blagues dans le chat. Yana, voilà. Nous on est du service public du stream. On essaye d'apporter de la hauteur, de la grandeur même parfois. Et vous vous rabaissez tout à chaque fois. Bah voilà, c'est incroyable. Hop. J'étais pas là hier soir, qu'est-ce que ça a dit l'allocution du Premier ministre ? Le Premier ministre a annoncé des aides ciblées sur le carburant pour les professions les plus exposées, notamment les marins-pêcheurs, les agriculteurs, les transporteurs routiers, les professions indépendantes qui ont besoin de la bagnole. Il n'y aura pas de mesure générale, en tout cas à date, et ça va concerner 3 millions de Français. Et ça ne, ça n'augurera pas d'augmentation d'impôts. Moi j'attends qu'on me fasse signe pour me dire de dégager hein. C'est vous qui me dites les copains. Moi j'anime le stream hein. Moi je suis là pour l'animation du stream. Moi je suis animateur professionnel hein. C'est mon métier, je suis animateur de colonie de vacances. Quoi, service public du stream? Et c'est nos impôts qui payent. Ouais, c'est vos impôts qui payent ouais. C'est, c'est Nicolas qui paye le stream. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah ok, c'est moi qui vais donner le top de l'émission.
Paul va me dire si c'est ok.
Moi je suis chaud, moi c'est toi qui me dis. Le chat est chaud, le chat vous êtes chaud? Vous me dites hein.
Bah, tu